Marcel et au directeur financier d'être autour de nous pour répondre à quelques questions et exposer également certains points à ma demande pour les points numéro 1 et 2. Nous commençons par excuser. Alors nous avons des pouvoirs, Madame Louillot et Monsieur Cassa. Monsieur Tricoire pour moi-même. Monsieur Léon, Madame Favier. Madame Julie pour Monsieur Cravert. Et c'est tout. Monsieur Foucara nous rejoindra avec un peu de retard. Secrétaire de séance sera Béatrice. Pas compris. Voilà. Merci Béatrice de m'accepter cette lourde charge. Avant de démarrer cette séance, pardon. Nous n'avons pas reçu de remarques écrites relatives à l'adoption du dernier procès-verbal. Vous avez peut-être des observations à faire en séance, M. Pradeille.
Oui, lors de nos échanges du dernier conseil municipal, nous vous avons demandé assez précisément le montant des fonciers. Qui était octroyé sur l'opération je ne sais plus comment il s'appelle mais
l'habitat participatif.
Nous avons fait Monsieur Bourguet vous a fait en plus une demande écrite.
Oui. Ben, on va vous donner les éléments aujourd'hui en séance. Oui. In extenso. On va vous les donner.
Avec une version écrite peut-être.
Pardon.
Avec une version écrite peut-être.
Ça sera compte rendu. Tout à fait d'accord. Oui. D'ailleurs. J'avais l'intention de vous donner, lors de la question de M. Bourguet, j'avais les prix pour les primo accédants et les prix pour les prix d'eau libre. Et aujourd'hui, on a les prix avec l'habitat participatif et ainsi de suite. Et je demanderai tout à l'heure à la directrice de la SPL, à Mme Souris, de nous donner ces prix et on les consignera dans le rapport, bien entendu. Ce sont des documents officiels, des documents transparents, des documents qui doivent être portés à la connaissance du public. Oui, absolument. Je tiendrai cet engagement, M. Pradeille, aujourd'hui. Je le tiens. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ceci posé, je vous demande d'approuver le dernier conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres observations, je vous remercie d'approuver dans son entièreté et sans réserve. Avant d'ouvrir la séance, avant de commencer le premier point, je me permets de rappeler la richesse de ce mois de septembre qui était le mois de rentrée. Qui a connu le samedi 2 septembre un événement qui a rassemblé bon nombre de Melgoriens, de Caronnais et même de visiteurs. Je veux parler de la fête du sport où nous avons eu plus de 2000 visiteurs avec une trentaine d'associations et des bénévoles qui ont œuvré pour la bonne cause et qui ont profité du beau temps qui a accompagné cette manifestation qui fêtait sa 10e édition. Jean Albert était remercié ainsi que les services municipaux qui ont contribué à cette belle fête, et surtout les associations également qui se sont retrouvées ce jour-là et le samedi 8 septembre à Carnon, avec un beau soleil également et un emplacement qui allait très très bien pour cela, avec en même temps l'accueil des nouveaux arrivants à la salle Aimé Césaire à Carnon. Et puis nous avons eu le jamais 203, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, Journée du patrimoine national, mais journée du patrimoine avec une tonalité, une connotation particulière, puisque le château a été ouvert, en tout cas la résidence comtale des comtes de Melgueil, les évêques comtes de Melgueil, a été ouverte au public le vendredi en avant-première pour les riverains, le samedi et le dimanche, à toutes les personnes visiteurs qui désiraient voir où en étaient les travaux, dont la conclusion se fera dans les 2 mois qui viennent, avec une ouverture définitive et une inauguration, une affaire qui aura duré plus de 12 ans, puisque la première acquisition avait eu lieu en 2006 à la famille Castagnier. Voilà. Et pour terminer, en termes d'événements notables qui impactent la commune centre, eh bien, le mercredi 19 septembre s'est déroulée l'inauguration des locaux de l'unité de production culinaire, l'UPC, à la Louvade. Un lieu, alors structure intercommunale bien sûr, un lieu et place des anciens de la base véhicule de l'agglo, avec une capacité de production de repas de 3000 repas par jour, en sachant qu'on garde l'unité de production au collège pour le collège et pour le reste pour le repas portage à domicile, pour les personnes, les aînés, pour les centres aérés. Un endroit opérationnel et bien pratique pour la distribution de ces repas. Donc nous avons accueilli l'ensemble des élus de l'intercommunalité et la semaine dernière nous avons eu un conseil communautaire. Voilà. Voilà donc ces éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et qui ont fait que notre ville a été bien animée pendant tout ce mois de septembre en rassemblant bon nombre de concitoyens et de visiteurs. Alors, je vous propose tout de suite de commencer. Non, on est dans les décisions municipales d'abord. Donc, vous avez les décisions municipales, comme d'habitude, les marchés avec les procédures adaptées diverses et variées en fonction des montants, qui sont souvent des avenants pour les travaux en cours, pour Prévert, pour Morastel. Il au Prévert, il en a pas mal. Voilà. Monsieur Frappoli.
Oui, bonsoir. Monsieur Brel, je vois que vous avez des décisions restées en justice oui. avec des désignations d'avocats.
Oui.
Bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne connais pas ces...
À quelle faites-vous référence?
Non, je vais faire une référence à un fait que vous avez fait appel sur une décision de justice contre le fait que vous avez été débouté sur l'affaire de Villecarnon Libre.
Alors, c'est quelle décision là?
Mais elle n'est pas là. Mais comme je vois
elle n'est pas là, elle n'est pas de...
Mais je vous pose la question, peut-être que vous pouvez me répondre, si vous voulez. Donc, Monsieur Valdé a été relaxé, donc vous avez fait appel de cette relaxe et vous avez engagé une autre procédure contre Villecarnon Libre. Le problème, c'est que justement, elle n'apparaît pas sur l'ordre du jour, de fait que dans la mesure où vous restez sur un nouveau dossier, je pense qu'il aurait été intéressant de faire savoir à la représentativité.
Le document m'est parvenu aujourd'hui de Maître Fournier avec une consignation des sommes. Donc c'est une procédure qui change de format.
Oui.
Bien entendu, elle figurera dans le prochain conseil municipal. Oui. Ce n'est pas mon sport favori, monsieur
Napoli. Oui, je sais.
Mais bon. Effectivement, quand bis repetita non placent,
oui.
Monsieur Val s'obstine dans une forme d'affichage réprimée par la loi.
Non, il a été relaxé là, monsieur Brel.
Non,
il a été relaxé, monsieur Brel.
Oui,
non, ne dites pas. Il n'est plus un chat, un chat. Il a été relaxé là.
Bon, c'est pas un chat. Et deuxièmement, écoutez, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des points. Moi, je maintiens l'ordre du jour. Ça, c'est pas l'ordre du jour. Et pas de problème, nous en reparlerons plus tard.
D'accord.
Oui, il y a une consignation de somme.
Oui.
Dont la décision n'est pas prise.
Oui, c'est passé jeudi, je crois. Jeudi ou vendredi, c'est ça.
Ouais. Vous êtes au courant, c'est bien.
Oui.
Alors.
Donc, vous avez pas envisagé sur soir? Vous n'avez pas envisagé de laisser tomber?
Enfin, je pense que c'est lui qui devrait envisager de laisser tomber maintenant. Moi, je ne peux pas, surtout quand une collègue carnonaise du nom de Madame Julie qui est adjointe doit chaque jour essayer de supporter, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas, n'étant pas avéré, quelque chose de difficilement supportable. Après, bon, ça engage, si vous voulez, quand on attaque un élu sur sa moralité ou sur ce qu'il engage, il y a une possibilité de protection juridique. Je fais jouer cette protection. Jouer n'est pas le terme. Je mets en œuvre cette protection juridique. Voilà. On vous tiendra au courant de cette...
J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr, que vous avez fait un courrier à cette association pour leur dire que, comme elle avait un conflit avec la mairie, elle ne pouvait pas se présenter...
Je ne lui ai pas accordé de place... Au sein des associations, effectivement. Les associations, ce sont des associations qui ont un but, justement, qui n'est pas un but politique. On n'est pas dans une joute politique, il y a des périodes pour cela. Et l'association de cette personne, après avoir consulté les services préfectoraux, m'ont autorisé à prendre cette décision. Si c'est votre question, j'y réponds. Voilà.
Vous avez, moi je ne sais pas, hein, mais le droit de succession est un droit constitutionnel,
oui.
Premier point.
Oui.
Si la présomption d'innocence se joue, surtout quand on a été relaxé en première instance, donc moi je trouve que c'est pas fair play de ne pas laisser une association se présenter. C'est peut-être le meilleur moyen, si qu'il y a un spam que vous vouliez rencontrer, d'aplanir les choses.
Toutes les deux heures, j'aurais pu y porter à moi. C'est vrai, c'est une.
Une
expression de charité chrétienne.
Non, monsieur le maire, moi j'ai connu parfois d'autres communes qui avaient moins bonne réputation que Monbiot.
Oui.
Et qui avait des tactiques de judiciarisation du débat public, c'est pas,
oui.
ça apportait rien.
Je vous avoue que je m'en passerai. Voilà. Ben, on est d'accord. Bon, le point est clos parce qu'il n'est pas l'ordre du jour et on est sur une déviance. Je maintiens l'ordre du jour si vous le voulez bien. Le premier point donc, est relatif à l'approbation du rapport annuel au titre de l'année 2017 de la SFL, leur aménagement. Alors, pour la première fois depuis que cette société existe, dans cette mandature, j'ai demandé à la directrice et au directeur financier, Mme Sauré et M. Bassinet, de venir présenter l'entité, puisque seules les personnes qui sont à l'Assemblée spéciale ou au conseil d'administration sont des personnes qui ont l'habitude d'entendre les faits et gestes de ce bras armé de la commune, en même temps ne connaissent pas l'organigramme, en même temps, parfois, au travers de certaines discussions, sont preneurs ou preneuses d'informations. Donc, profitant de cette double mission qu'est celle pour le point 1 du rapport d'activité et du point 2 pour le compte pour le CRAC, contre-additionnel à la collectivité, je vais demander à Mme Sauré et à M. Bassinet de présenter brièvement le rôle de la composition et le rôle de la SPL, leur aménagement, et ensuite de nous développer ce rapport d'activité, de nous présenter ce rapport d'activité. Merci.
Bonsoir, donc, je vais essayer d'être brève, mais c'est deux documents importants, hein, à la fois le rapport annuel des représentants au sein du conseil d'administration de leur aménagement, et puis ensuite le CRAC, hein, qui est un document aussi que nous devons à la collectivité concédante sur l'opération de la fonte de Monbiot. Donc peut-être rapidement, ce compte-rendu que nous sommes tenus de faire, et que les élus sont tenus de faire au conseil d'administration, au conseil municipal, excusez-moi, sur les comptes de la société, donc il s'agit des comptes arrêtés à fin 2017 avec les perspectives 2018. Donc je rappelle rapidement ici que c'est au regard du Code général des collectivités territoriales, hein, que comme vous êtes au conseil d'administration et que vous avez des parts au sein de la société, on doit chaque année vous transmettre les éléments de synthèse de ce rapport de gestion. Je rappelle également un petit peu le rôle de la SPL, hein, on a des missions à la fois d'assistance à maîtrise d'ouvrage et ou de mandataire ou d'aménageur dans des domaines de l'aménagement globalement, sur l'habitat, sur le développement économique. Et depuis que nous avons été transformés et passés en SPL, nous avons aussi les capacités de gérer des services publics d'intérêt général. Rapidement, l'organigramme de la société. Aujourd'hui, la société leur aménagement, c'est 12 personnes, plus le président directeur général, donc M. Bourrel, organisé autour d'une direction et de plusieurs pôles, donc un service juridique et marché, un service financier avec fin 2017 le recrutement d'Emmanuel Bassinet, donc directeur administratif et financier, qui était un poste qui n'existait pas au sein de leur aménagement, mais avec la montée en puissance de nos opérations et notamment des concessions d'aménagement, ce profil de poste devenait nécessaire en interne puisqu'il était externalisé auparavant. Et puis un service opérationnel à la tête duquel il y a Amélie Bohin, responsable opérationnelle, avec aujourd'hui 4 chargés d'opération et une assistante chargée d'opération. La commune de Monbiot aujourd'hui, elle représente 31,54% des actions de cette société. Et il y a 5 représentants au sein du conseil d'administration, donc Sophie Trempagne, Caroline Favier, Bernard Cassa, Jacques Cravert et Jean Albert, donc, qui participe à l'ensemble des conseils d'administration de la société. Au niveau de la répartition du capital, depuis que nous sommes passés en SPLA, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est devenue l'actionnaire majoritaire de la société avec 51% du capital. Mogio est le deuxième actionnaire, donc avec 31,54%. La commune de la Grande Motte, qui était une commune qui n'avait que 0,31% des actions, a racheté tout début 2018 les parts du département, puisque le département devait sortir de la société, puisqu'il a perdu ses compétences en matière de développement économique. Et la Grande Motte a souhaité racheter ses parts et donc est devenue le troisième actionnaire de la société. Ensuite, la commune de Valergues, qui a 5% des actions. La métropole de Montpellier, troisième, donc qui historiquement fait partie de cette société depuis l'origine, à l'époque c'est le district. Et puis ensuite l'ensemble des communes, Candiargues, Lensalle, Mudaison, Palavas et Saint-Aunès, qui représentent 0,31% des actions et qui, au sein du conseil d'administration, sont représentées par le président d'une assemblée spéciale, donc qui est M. Monestier, aujourd'hui le maire de Candiargues. Du coup, cette assemblée spéciale se réunit dans le cadre du contrôle analogue, systématiquement avant tout conseil d'administration, adossé également à une instance qu'on s'appelle comité d'engagement, et qui est chargé aussi d'examiner les points à l'ordre du jour du conseil d'administration et des sujets divers que les membres de ce comité d'engagement souhaiteraient évoquer sur la société.
Donc, je vais vous présenter rapidement les comptes sociaux de la société, de la SPL. Donc là, vous avez un graphique qui reprend les quatre dernières années de chiffre d'affaires, 2014, 2015, 2016 et 2017. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a deux cadres. Le premier, qui est le chiffre d'affaires total, y compris les cessions de lots à bâtir et autres cessions de terrain que l'on peut faire dans le cadre de nos concessions d'aménagement. Donc on voit que sur le chiffre d'affaires 2017, le chiffre d'affaires représente, il y a une inversion, c'est 13 377 000 pour 6 400 000 en 2016. Et les honoraires, qui est le cadre bleu, qui sont en fait la facturation de nos prestations dans le cadre des AMO ou d'ailleurs dans le cadre des concessions, on facture des honoraires. Donc en 2017, on est à hauteur d'un million pour 787 000 euros sur 2016. Point qui est important, c'est que nos concessions ont augmenté très fortement sur 2017. On a signé un premier mandat avec le 3M pour la ville de Pérols en 2017 et on a un niveau d'AMO qui reste stable. Dernier point, c'est que le chiffre d'affaires qui est lié essentiellement aux concessions d'aménagement, il y a deux villes, c'est Saint-Aunès et Mudaison, qui représentent 65% de notre chiffre d'affaires. Quand on reprend le compte d'exploitation, on l'a décliné sur 4 ans. Donc on a juste repris les produits d'exploitation, essentiellement les honoraires. Donc on retrouve le million en haut de chiffre d'affaires lié à nos honoraires, 1,4 million de produits d'exploitation sur l'année 2017 pour 788 000, donc une belle progression sur l'année 2017. Les charges d'exploitation, ils sont passées de 749 000 euros à 928 000 euros. C'est essentiellement lié aux frais de personnel, puisqu'on avait une activité en très forte croissance. On a effectué des renforts, et j'en fais partie, sur l'année 2017. Donc, un résultat d'exercice, on voit qu'il est passé de 34 000 à 53 000 sur l'année 2017. En progression, plutôt une très belle année sur l'année 2017. Quand on prend, là c'était le compte de résultat, maintenant on va passer sur le bilan. Donc pour reprendre un peu le bilan de la SPL, en fait on gère un stock de terrain. C'est pour ça qu'on voit qu'on a un stock en cours qui aujourd'hui représente 11 millions d'euros. C'est tous les terrains que l'on a dans les différentes actes. Donc il a baissé entre 2016 et 2017, il est passé de 15 millions à 11 millions. On a la traduction de l'autre côté, puisqu'on a fait le chiffre d'affaires qui est en face. C'est toute la cession de lots à bâtir qu'on a pu faire, ou autre, pour des macro-lots par exemple. Donc ça représente 11 millions. Les créances clients en progression, c'est essentiellement lié à une rétrocession de terrain, qu'on verra tout à l'heure sur le crack de la fonte de Mogio. C'est un effet de timing. Une trésorerie qui est montée très fort en fin d'année 2017, donc, puisqu'on est passé de 2,9 millions à 7,6 millions. C'est lié à la cession des terrains qui sont rentrés sur la fin d'année. Quand on prend le passif, on voit qu'on a des fonds propres qui sont en forte progression depuis quelques années. On est à 1,4 million. Les réserves, la société a pour principe d'affecter systématiquement le résultat d'exercice au sein de ses réserves. Donc il n'y a jamais de versement de dividendes. La raison, elle est simple, c'est que ces fonds aujourd'hui nous servent, dans le cadre des ZAC, à faire des avances de trésorerie quand on en a besoin, au lieu d'aller voir les banquiers.
une provision sur charge à hauteur de 1 229 000 euros qui a été passée sur l'année 2017, qui est une provision qui est 99%, qui est une provision liée à des charges sur la ZAC de Mudaison, Loup-Plan Désert. On a fini toute la vente en fin 2017, à l'exception d'un lot qui s'est vendu en début d'année 2018. Et il reste un certain montant de travaux qui doivent se réaliser sur l'année 2018-2019. Donc on a provisionné ces frais-là à ce niveau-là. Au niveau des emprunts, on voit qu'on maintient un niveau d'emprunt de 15 millions régulièrement depuis plusieurs années. Donc tout simplement, toutes les acquisitions et les travaux que l'on peut faire sur les ZAC, on les finance essentiellement par l'emprunt. Donc ça donne, un niveau d'emprunt à hauteur de 15 millions sur 2017 et un total de dette qui est de 17 millions. On a quelques dettes fournisseurs et autres dettes fiscales.
Au niveau de l'activité opérationnelle de leur aménagement, donc comme je l'ai dit en introduction, notre société agit à la fois en tant qu'aménageur, donc maître d'ouvrage dans le cadre de concessions d'aménagement, que nous avons signé avec plusieurs collectivités, et puis ensuite sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, nous avons signé 5 concessions d'aménagement sur le territoire du Pays de l'Or, donc à la fois avec la commune de Saint-Aunès, la commune de Mudaison, la commune de Valergue, Lansargues et puis Montbiot. Donc ça représentera à terme 1700 logements qui seront réalisés par la société dans le cadre de ces concessions d'aménagement et qui représentent 38% de la production nécessaire dans le cadre du PLH de l'agglomération. Et ces opérations généreront 33 millions d'euros de travaux, donc qui permettront aussi de faire travailler des entreprises, locales ou dans le périmètre, très proche de l'agglomération du Pays de l'Or. Ensuite, l'autre activité de la société, ce sont les missions que nous avons en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en mandat. Trois principaux donneurs d'ordre, je dirais, en AMO, c'est la commune de Montbiot, l'agglomération du Pays de l'Or et la commune de la Grande-Motte. Donc la commune de Montbiot, nous avons travaillé à la fois sur l'école Prévert, sur le schéma directeur de Montbiot-Carnin, sur la capitainerie. L'agglomération du Pays de l'Or, les missions d'AMO que nous avons pour l'agglomération sont exclusivement tournées vers des problématiques économiques. Et la commune de la Grande-Motte, nous accompagnons la commune de la Grande-Motte depuis maintenant 4 ans sur son projet Villeport, donc d'extension portuaire, où nous avons eu des missions d'AMO sur l'année 2017. Et comme l'a dit Emmanuel, nous avons signé en 2017 le premier mandat avec 3M, sur une requalification des péages du canal de Pérol et du port de Pérol, qui est un projet plutôt de renaturation. Au niveau des décisions importantes qui se sont prises dans cette société, donc nous avons eu 4 conseils d'administration. C'est en règle générale le rythme du nombre de conseils d'administration que nous tenons au sein de leur aménagement. Les conseils qui se sont réunis se sont tenus sur des sujets concernant des emprunts, sur les différentes actes que nous avons, sur naturellement l'examen et l'arrêté des comptes, et puis également sur des projets d'avenant liés aux concessions d'aménagement, également sur des raménagements d'emprunts sur la fonte de Montbiot. Et puis nous tenons en règle générale une seule assemblée générale ordinaire pour pouvoir approuver les comptes de l'exercice de l'année précédente. Ensuite, en termes d'orientation stratégique sur cette société, travail que nous effectuons avec l'ensemble des élus du conseil d'administration, il y a 3 axes qui ont été validés par les élus. C'est à la fois l'axe de l'habitat, donc à la fois sur les concessions d'aménagement, mais la société s'orientera de plus en plus sur des montages plus complexes de requalification urbaine, donc qui sont des procédures beaucoup plus longues, et donc nous sommes en train de former nos équipes sur ces sujets-là. Nous sommes également sur les sujets de développement économique, avec à la fois des enjeux de création sur l'extension de l'écoparc de Saint-Aunès, mais il nous semble important aussi de se positionner sur des enjeux de requalification sur des zones existantes, et nous avons signé une mission d'AMO avec l'AGLO sur Fréjorgues Est et Ouest. Cette zone a besoin d'une requalification, et pas seulement de voirie, mais aussi de bâtiments. L'autre sujet important, c'est les ports et les stations balnéaires. Donc sur Carnon, c'est le schéma directeur que nous pilotons pour le compte de la commune avec la signature d'un mandat sur un plan d'action sur 6 ans et puis également le projet Villeport de la Grande-Motte sur lequel nous avons signé à la fois des missions d'AMO et un mandat qui va s'échelonner aussi sur plusieurs années. Donc la traduction financière de ce prévisionnel, Emmanuel.
Oui, donc on retrouve l'année 2017 donc avec les 53 000 euros de résultats et le million de chiffre d'affaires et on a essayé de faire une projection sur 2018, 2019 et 2020. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on essaie d'avoir une stabilité, que ce soit sur le chiffre d'affaires et le résultat. Donc on a une progression du chiffre d'affaires qui passe d'1,80 million à 1,3 million. C'est essentiellement lié à une très forte progression des concessions que l'on peut avoir, puisqu'on va rentrer sur des phases de cession très importantes sur 2 ou 3 concessions, donc ça va nous apporter un peu plus de rémunération. Une partie aussi sur les missions d'assistance AMO. Là-dedans, il y a aussi une partie des mandats, et on voit que sur 2019, il y a une pointe un peu forte, et 2020, c'est les mandats que l'on vient de signer, justement, que ce soit le cas de celui de Canon, mais aussi celui du projet Liport de la Grande Motte. Dans les frais, on a une progression des frais d'exploitation, globalement. C'est lié toujours à un effort sur les frais personnels. Aujourd'hui, on a une demande forte. On a besoin d'accompagner tous ces projets. Donc, on finit de structurer. C'est des effets de 12e, puisqu'on a embauché sur l'année 2017 pour arriver à 12 personnes. Et donc, on a un effet sur 2018 et 2019 qui continue. Donc on voit à la fin un résultat d'exploitation en équilibre sur l'année 2018, qui est une année un peu charnière. On est un peu moins, on investit beaucoup en effet humain, on va dire, plus que ce qui nous rapporte aujourd'hui le chiffre d'affaires. Mais on retrouvera sur les années 2019 et 2020 le retour de cet investissement, et on voit qu'on a un résultat qui monte à 22 000 et 43 000 euros.
Voilà sur les comptes. Merci.
Oui, poursuivez pour le CRAC.
Donc, autre document, donc le compte rendu financier annuel à la.
Dans un deuxième temps, si les questions techniques seront abordées en présence de la directrice, M. Bassinet, les votes ensuite seront faits par l'Assemblée et Mme Souris et M. Bassinet nous quitteront. Hein.
Donc sur le compte rendu concernant la ZAC de la Fonte de Mobilio, rapidement, c'est une concession qui a été signée avec la commune en janvier 2013 jusqu'en 2021. Depuis, il y a eu 2 avenants qui sont passés en 2015 et en 2017 sur cette concession d'aménagement. Un premier avenant pour prolonger la durée de la concession jusqu'en 2028, puisque réaliser 30 hectares à l'époque, hein, puisqu'on était sur 30 hectares, mais ne pouvait pas être réalisé sur ce laps de temps, donc on a prolongé la concession d'aménagement. Et ensuite, un deuxième avenant qui est venu en 2017 suite aux études hydrauliques et à la réduction du périmètre, donc de 31 hectares à 19 hectares. Donc un plan, le plan d'aménagement de cette opération, hein, situé à l'est de la commune, donc avec l'architecte urbaniste l'agence Fichet associé. Donc ça, c'est le dernier plan masse qui va faire l'objet notamment d'un dossier de réalisation qui devra être approuvé par la commune d'ici la fin de l'année. Au niveau du programme prévisionnel des constructions, nous sommes toujours sur 70 000 m² de SDP sur cette opération, donc qui représentera à peu près 740 logements à la fin de ce projet, dont 15% de logements abordables. La répartition aujourd'hui est de 17% de loi bâtir, 52% de logements collectifs libres et 31% de logements collectifs aidés. Il est important aussi de rappeler que cette opération va s'inscrire aussi dans le rythme de production de logements qu'avait souhaité la commune et qui se retrouve dans le stock du Pays de l'Or et également dans le PLH, avec une augmentation et une production de 1% par an maximum, ce qui représente à peu près 72 logements par an à produire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu 120 à 140 logements produits par an en moyenne sur la commune. Ce rythme de production va également permettre d'assurer le besoin, ne serait-ce qu'en desserrement, de la population de Mobilio intrinsèque aujourd'hui. Au niveau de la répartition de ce projet, tout naturellement, ne va pas se réaliser en une seule tranche. On ne réalise pas 19 hectares de travaux d'aménagement en une année. Donc on m'a réparti ce projet aujourd'hui sur 4 tranches qui vont s'échelonner en fonction des travaux et de la commercialisation. Donc aujourd'hui, la première tranche de travaux qui se situe au nord de l'opération, donc au parc d'hôtes de l'avenue Jean Moulin, va représenter 210 logements avec 53 logements sociaux, ce qui représente 25%. Et ensuite, chaque tranche, en fait, on va retrouver un pourcentage plus ou moins élevé de logements locatifs aidés pour, sur la totalité de l'opération, retrouver ces 31% de logements sociaux.
Merci. Je vais vous présenter le bilan de l'opération. Avant toute chose, pour qu'on soit... Je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. La première chose, c'est que la première colonne, c'est le bilan qui a été approuvé là, au 31 décembre 2016. Donc c'est la colonne jaune. Donc on retrouve, grosso modo, un résultat d'exploitation à 286 000 euros qui avait été approuvé au 31 décembre 2016. On va retrouver ce qui a été réalisé sur l'année 2017, que ce soit donc en fait 2016 plus l'année plus le cumul 2017. Donc ce sont toutes les réalisations, tous les frais qu'on a pu engager, les recettes que l'on a eues. La prospective sur 2018-2019 et au-delà, je l'ai synthétisée sur trois colonnes, donc c'est la perspective des frais que l'on va avoir, plus les recettes sur les trois prochaines années, on va dire, les deux prochaines années plus au-delà. Et enfin, là, vous avez le bilan définitif à terminaison de l'opération, donc on retrouvera les dépenses, les recettes, et plus le résultat. Donc, un poste dépense, qui reprendra différents points qu'on va détailler, un poste de recettes, le résultat d'exploitation, qui n'est plus ni moins l'écart entre les recettes et les dépenses, un poste de financement qui correspond en fait à comment on va financer les opérations et les travaux et les acquisitions, et donc à la fin vous avez un solde de trésorerie.
Alors, les faits marquants hein, sur l'année 2017 sur cette opération, ça a été au niveau des acquisitions un montant de 13 000 euros, si je ne me trompe pas, donc qui correspondent à des paiements de l'impôt foncier et puis une mission que nous avons confiée à la SET, qui est un partenaire extérieur et qui nous a aidé notamment sur le montage du dossier de DUP et de l'enquête parcellaire. Nous avons également la cession des terrains, donc la restitution des 11 hectares qui faisaient partie de l'opération au départ, donc dans les 31 hectares de départ de l'opération, et qui suite au porté à connaissance des services de l'État sur le risque d'inondation, a vu réduire le périmètre. Et donc nous ne pouvions plus garder dans le périmètre de la concession ces 11 hectares, et du coup on a dû les restituer à la commune. Donc c'est une recette puisque... voilà. Au niveau des acquisitions foncières, aujourd'hui, la société détient 45% du foncier sur ces 19 hectares. Nous n'avons pas procédé à de nouvelles acquisitions en 2017. La commune de Mobio a signé une convention en 2017 avec le PF Occitanie pour prendre en charge ces acquisitions, c'est-à-dire qu'elle assure à la fois certaines négociations et puis elle en prend en charge le portage financier. Et une fois qu'on arrive en fait aux différentes échéances de tranches de travaux, nous rachetons en fait ce foncier à l'EPF. Et il a été décidé également de façon conjointe avec l'EPF qu'en fonction du type d'acquisition, c'est-à-dire que si nous sommes sur certaines acquisitions un peu complexes, où il y a des dations à mettre en place ou des échanges de terrain, c'est leur aménagement qui reprendra la main sur ces acquisitions, puisque l'EPF ne peut pas réglementairement aller sur ce genre de montage financier. Au niveau des études, donc sur l'année 2017, 288 000 euros d'études qui ont été réglées aux différents maîtres d'œuvre et bureaux d'études avec qui nous travaillons. Donc ça concernait des études urbaines et de programmation, le solde de l'avant-projet 2, puisque nous avons dû reprendre avec le maître d'œuvre l'intégralité de l'AVP qui avait été fait sur les 31 hectares, et on a dû reprendre en fonction du porté à connaissance des services de l'État plusieurs variantes sur ce projet. Et puis également, ça concerne le solde d'études acoustiques et de programmation que nous avons réalisé, notamment par rapport à l'ARD au nord de Mobio. Au niveau des travaux et honoraires techniques, ça concerne quelques petits postes comme des travaux de débroussaillage, puisque nous sommes propriétaires de certains terrains qui jouxent des parcelles et des maisons individuelles à l'est de Mobio. Donc régulièrement, nous avons passé une entreprise pour débroussailler. On a dû faire des relevés et des plans de géomètres. Et puis nous avons fait également des travaux de sondage pour les réseaux AEP pour les travaux de la tranche 1 et des études géotechniques. Ensuite, au niveau des frais divers, ça regroupe plusieurs éléments, donc notamment des frais de communication. Donc nous avions une agence de communication qui s'appelait Terra Luna et qui nous accompagnait notamment sur des réunions publiques et les mises au point du site internet concernant la fonte de Mobio. Nous avons eu également des frais d'expertise financière avec une société ASG Finance. Des frais d'expertise également auprès de la SET et du cabinet CGCB qui est notre avocat sur cette opération. Et puis un certain nombre d'annonces légales et frais postaux liés aux consultations que nous avons dû lancer, donc pour un montant de 24 000 euros sur l'année 2017. Et puis la rémunération de la société qui est basée sur le contrat de concession avec des montants de rémunération forfaitaire et puis des rémunérations variables qui sont adossées sur une partie des dépenses et sur également les recettes.
Donc sur la partie financière, donc deux points, les frais financiers qui sont les frais des emprunts ont représenté 114 000 euros sur l'année 2017. Les points marquants sur l'année 2017, il y a eu la renégociation des frais, étant donné qu'il y a eu l'aménagement du terrain. Donc après la caisse des dépôts et consignations, on a rallongé de 4 à 10 ans l'emprunt. Auprès du crédit mutuel, on est passé de 2 à 3 ans. Auprès du crédit coopératif, on a fait un aménagement du capital restant dû, puisqu'on devait aller plus loin, on est resté sur 1,656 000 euros. Donc ça représente aujourd'hui, au 31 décembre 2017, la mobilisation des prêts, c'est 6,878 000 euros, qu'on redécouvre, qu'on voit dessous, par le crédit coopératif, toujours 1,6 million. Le crédit agricole, on a mobilisé 128 000 euros. La caisse d'épargne, 1 million, 2 millions sur le crédit mutuel, et 1,6 million sur les dépôts, la caisse des dépôts et consignations.
Au niveau des points clés hein, de l'année en cours, donc de l'année 2018, aujourd'hui en termes de maîtrise foncière, donc une enquête publique a été lancée. Cette enquête publique est une enquête qu'on appelle une enquête unique qui va regrouper la DUP cessibilité, la mise en compatibilité du PLU et l'ensemble des autorisations environnementales. Donc cette enquête publique est en cours, hein, elle se déroule le 17 septembre au 19 octobre. Parallèlement à ça, nous poursuivons néanmoins l'ensemble des négociations foncières à l'amiable, puisque tant que nous ne sommes pas devant le juge et jusqu'au transport des lieux du juge sur le site, nous pouvons et nous souhaitons poursuivre ces négociations amiables avec les propriétaires qui n'ont pas encore signé sur cette opération. En termes d'archéologie, on avait des sites qui avaient été repérés quand on a démarré l'opération, donc il y a eu des diagnostics faits par l'INRAP qui ont conclu à la nécessité de faire 3 campagnes de fouilles. La première campagne de fouilles a été réalisée en 2018, qui nous permet en fait de libérer la tranche 1 de l'opération. Sur le démarrage des travaux, de la tranche 1, qui je rappelle se fait sur une partie de foncier que nous maîtrisons à 100%. Donc en fait, des travaux ont déjà démarré côté maîtrise d'ouvrage commune pour la mise en œuvre du cadre hydraulique sous l'avenue Jean Moulin entre septembre 2017 et janvier 2018. Nous avons également finalisé ce qu'on appelle le PROS, c'est-à-dire que c'est un dossier encore plus poussé que l'AVP, donc qui permet avec ce document de lancer pour DCE, de lancer les appels d'offres travaux. Ce document a été présenté au service technique de la ville et de l'agglomération, puisque l'agglomération est aussi concernée par un certain nombre de réseaux qui vont être réalisés sur cette opération. Et donc, il est prévu de lancer la première tranche de... Enfin, la consultation pour la tranche 1 et 2 en octobre 2018 pour un démarrage des travaux de la tranche 1 au mois de mars 2019, ce qui nous amènerait à livrer les premiers terrains en novembre 2019. Ensuite, en termes de commercialisation, nous avons lancé plusieurs événements, je dirais, au mois de juin 2018. Donc, c'était la consultation promoteur. Donc, sur la tranche 1 de l'opération, il y a 2 macro-lots qui ont été lancés en consultation auprès de 20 promoteurs, donc 10 promoteurs sur chacun des macro-lots, donc pour réaliser à la fois de l'habitat collectif et du logement social. Nous avons fait le choix de ne pas passer sur des programmes, ce qu'on appelle en VFA, c'est-à-dire ces promoteurs qui construisent pour des bailleurs sociaux, parce que nous souhaitons avoir une qualité en fait, de réalisation de logement social à la hauteur je dirais, de nos exigences en termes qualitatifs, notamment pour un patrimoine qui est après géré sur 50 ans. Donc sur ces 20 promoteurs, 3 promoteurs ont été choisis sur chacun des macro-lots. Ils vont nous remettre des esquisses mi-octobre, et donc nous devrions faire le choix définitif des 2 lauréats d'ici le mois de novembre et signer les compromis en 2018. Donc un rappel sur les prix, sur les logements collectifs libres. Nous avons fait également le choix volontaire de ce qu'on appelle dire caper les prix pour ne pas faire flamber les prix de charges foncières, puisqu'aujourd'hui, Nous avions eu écho auprès de promoteurs montpelliérains qui sont comment dire, en attente de cette opération, qu'ils allaient faire des propositions en charge foncière, donc en SDP, très très élevées. Donc nous avons proposé à la commune de lancer cette consultation en disant aux promoteurs, de toute façon on ne vous jugera pas sur le prix auquel vous allez nous acheter la charge foncière, nous allons vous juger sur la qualité de vos projets et également sur le prix de vente de sortie. Donc nous avons bloqué également le prix de vente de sortie de ces logements. Donc aujourd'hui le prix de vente de sortie sera à 3 700 € TTC le mètre carré hors parking. Pourquoi nous avons fait cela? Parce que sur d'autres consultations et en se renseignant auprès d'autres collègues, quand les charges foncières, donc le prix de mètre carré de SDP va à 600 ou 700 euros du mètre carré de SDP, il s'en sort qu'on a des opérations peut-être avec de très belles façades, mais avec des qualités de logement qui peuvent être déplorables et qui vont engendrer des coûts de fonctionnement pour les acquéreurs, que ce soit des locataires ou des propriétaires, importants. Et nous voulions éviter cet effet de surenchère. Ensuite, sur le logement abordable, donc là, nous avons également fixé les prix à 450 € hors taxe mètre carré de terrain pour un prix de vente à 3 000 € TTC le mètre carré pour le logement abordable. Et sur le logement social, nous avons également capé le prix à 180 € hors taxe le mètre carré pour les bailleurs qui achètent la charge foncière. Nous avons également lancé la consultation pour la vente des lots à bâtir. Donc il y a eu une réunion d'information qui a eu lieu lundi. Nous avons aujourd'hui, sans avoir fait aucune publicité, près de 270 personnes qui se sont inscrites depuis presque 4-5 mois auprès de leur aménagement pour pouvoir acquérir un terrain sur cette opération. Une grande partie sont des gens qui habitent la commune, ou qui ont de la famille à Mobilio, voilà, c'est important de le dire puisqu'on va répondre à une demande. Il y a 31 lots à bâtir qui vont être mis à la vente. Donc on a à la fois des lots que nous allons vendre avec permis, donc ce sont des petits lots, hein, qui sont inférieurs à 300 mètres carrés, et pour pouvoir garantir une qualité urbaine aux futurs acquéreurs qui à cette opération. Donc ces 11 lots seront vendus à 485 € TTC le mètre carré, et ensuite avec un permis et un prix de sortie des logements qui sera également maîtrisé. Et ensuite nous avons 20 lots libres, donc libres de constructeurs, qui seront vendus à 515 € TTC le mètre carré de terrain. Nous sommes aujourd'hui à peu près 10% en dessous du marché, puisque ce qu'on a pu observer sur des communes limitrophes ou sur Modio, on est plutôt aujourd'hui sur des terrains à 600 € TTC le mètre carré de terrain. Sur l'habitat participatif, donc ça c'est une volonté à la fois des élus de Modio et de leur aménagement, nous avons signé un protocole d'accord entre leur aménagement, la commune, FDI Habitat et l'association Ecolor, qui a été signée en septembre 2018. Et avec un compromis qui devrait être signé en janvier 2019, et avec une SDP qui a été vendue à 470 € hors taxe le mètre carré. Au niveau de l'échéancier prévisionnel sur l'année 2018, on va solder l'ensemble des études bois sur eau.
Excusez-moi, SDP, c'est...
Surface de plancher, c'est ce qu'on appelait avant la CHON. Maintenant, ça s'appelle la SDP. Donc sur l'année 2018, on va solder ces études bois sur eau et la mise en compatibilité du PLU. Il va y avoir également la mise en œuvre du dossier de réalisation qui arrête le programme des équipements publics, le cahier de prescription architecturale qui en fait va guider en fait les personnes pour construire, à la fois quand ils sont libres de constructeurs, mais également les promoteurs. Il y a eu la réalisation du PRO tranche 1 et 2. Et puis également, nous avons lancé une étude d'opportunité et de faisabilité pour la mise en œuvre d'un réseau de chaleur sur l'opération. Aujourd'hui, sans dévoiler de secret, mais en toute transparence, les hypothèses qu'on a pu avoir surenchérissent énormément le coût derrière pour l'utilisateur final. Donc on n'est peut-être pas aujourd'hui dans une opération à taille qui permet d'avoir un réseau de chaleur global sur l'opération. Donc on est en train de continuer à creuser cette piste à la demande de la commune. Au niveau des acquisitions foncières, donc on va poursuivre les acquisitions de terrain nu auprès de tiers de la commune et de l'agglomération du Pays de l'Or, puisqu'on rachète une partie du terrain autour de ce qu'on appelle les oreilles de Mickey, je pense que tout le monde connaît, enfin, de l'ouvrage qui est avenue Jean Moulin. Et puis également, il y a la réalisation de la première campagne de fouilles et puis le paiement d'impôts fonciers de frais de débroussaillage. Ensuite, sur les travaux et honoraires techniques, donc, qui vont représenter 233 000 euros sur l'année 2018, nous avons mené des mesures écologiques en stage chantier, donc des choses qu'on va intégrer. Il y a le dévoiement des réseaux AEPEU sur l'avenue Jean Moulin, des frais de géomètre, et puis ensuite différents frais de reprographie, constat d'huissier sur l'année 2018. Ensuite, en termes de cession de terrain, qui représente 508 000 euros, c'est en fait la signature des premiers compromis sur la première tranche de l'opération. En termes de synthèse, on voulait refaire un focus sur les écarts. Donc, chaque bilan approuvé à l'année N-1, un bilan d'opération comme une opération sur 10 000 hectares, il bouge sans arrêt au cours de l'année. Et donc après, vous allez approuver un nouveau bilan à l'année, à fin 2017. Et puis vous réapprouverez après en 2018. Et il y a des chiffres qui, au fur et à mesure, s'affirment, puisque quand on signe des nouveaux marchés, ben, on a des montants exacts par rapport au prévisionnel qu'on peut faire évoluer d'année en année. Donc aujourd'hui, au niveau des recettes, on a cet écart entre 2016 et 2017, un ajustement puisqu'on a plus 1,1 900 000 euros de recettes en plus, qui est lié en fait à un ajustement des surfaces cessibles et puis aussi à une revalorisation et à un réajustement des concessions des terrains, à la fois pour les promoteurs et puis pour les lots à bâtir. En termes de dépenses, c'est plus 2 millions d'euros de dépenses, qui sont liés à plusieurs éléments, à la fois les acquisitions, puisqu'on a dû refaire une actualisation de la valeur vénale de certaines propriétés bâties qui sont au nord de l'opération, et puis au coût de rachat par l'EPF, à l'EPF de ce foncier. On a également dû reprendre un certain nombre d'études suite aux études hydrauliques et à cette réduction de périmètre, donc qui représente plus de 381 000 euros. Donc ce sont des études, on appelle les études pro. On a également eu des travaux et honoraires techniques qui ont augmenté de 780 000 euros en adéquation avec ces coûts de travaux supplémentaires. Et puis on a dû prendre en compte les prescriptions techniques à la fois de l'agglomération du Pays de l'Or, des exigences du département liées à des traitements de l'accès à la ZAC au droit d'un macro-lot, le macro-lot 7. Également des demandes qui ont été formulées par la commune sur l'aménagement de la place principale de cette opération, et puis également le recours à une équipe d'écologues pour l'accompagnement des phases chantiers, parce que c'est quelque chose qui est ressorti en phase concertation sur ce projet. Et puis on a eu des frais divers qui ont baissé de 124 000 euros, puisqu'on a essayé à chercher à optimiser certains coûts, notamment l'ingénierie financière. La rémunération de la société augmente en adéquation avec les dépenses et les recettes. Et les frais financiers, plus 185 000 euros, liés à des sollicitations de nouvel emprunt sur la tranche 1 de l'opération.
Donc pour conclure, il y a deux points qui étaient importants. Déjà, ce qui était très important, c'est qu'on a cherché à maintenir les équilibres financiers sur cette opération. Et on peut s'apercevoir que l'opération va maintenir une participation aux équipements à hauteur de 3 300 000 euros. Donc, ce qui est un point très important. Et le deuxième, c'est que globalement, on arrive toujours à avoir un résultat d'exploitation de 229 000 euros, qui est en légère baisse, mais qui est toujours positif au regard des évolutions qu'on a pu connaître sur l'année 2017.
Je vous remercie. Donc, si vous avez une question technique à poser à Mme Souris ou M. Bassinet, avant de leur... Monsieur Fabetti.
Oui, bonsoir. J'ai trois questions techniques. La première, c'est juste, j'ai pas bien compris le premier slide ou le deuxième. Il y a 13 millions de chiffres d'affaires.
Oui.
Mais c'est le...
C'est le volume de chiffres d'affaires,
celui-là. Le volume de chiffres d'affaires, celui-ci.
C'est sûr.
Mais de...
De la société.
De la société, c'est...
En général,
c'est un million.
Toutes opérations confondues.
Oui. Ah oui, alors les honoraires, c'est le chiffre d'affaires de leur aménagement.
Voilà, en fait.
Les 13 millions, c'est le chiffre d'affaires de quoi
en fait, on a une obligation de tenir une comptabilité spécifique sur nos ZAC, donc nos différentes opérations que l'on a en concession d'aménagement. Donc, en fait, c'est ça représente toutes les cessions qu'on peut avoir de l'eau, etc. C'est les 12 376 000 euros. Sauf que, comme c'est une comptabilité, c'est intégré directement dans notre chiffre d'affaires. Ça implique d'ailleurs des taxations supplémentaires, etc. Donc on est obligé d'intégrer ça en chiffre d'affaires, mais notre rémunération, donc nos produits d'exploitation, c'est 1 000 euros. Donc ce sont les honoraires que l'on facture, que ce soit dans le cadre des AMO, du mandat, ou dans le cadre des concessions d'aménagement. Mais on est obligé de déclarer un chiffre d'affaires à hauteur de 13 millions, une consolidation de nos rémunérations, plus les cessions de l'eau à bâtir. C'est d'un point de vue technique et fiscal, ouais, notamment. On a différentes taxes qui sont indexées là-dessus.
D'accord. Puis, alors, deux autres questions. C'est, la première, c'est les personnels de leur aménagement sont fonctionnaires ou en contrat de droit privé?
Tous sont de droit privé, convention collective de l'immobilier.
D'accord. Ok. Et ma troisième question, c'est en termes de stratégie commerciale de leur aménagement. Est-ce que la vocation, c'est de dépasser le périmètre en termes d'affaires, de prospection de l'étang de l'or, d'aller au-delà? Donc du coup, est-ce que la stratégie de résultat, c'est de, à terme, de le maximiser? Et dans ce cas-là, y aurait-il des dividendes pour les communes? Et dans ce périmètre-là, nos concurrents sont qui? Vos concurrents sont qui?
Je vais répondre en partie. Bien naturellement, les transformations successives de SEM à SPLA, puis à SPL, sont de nature à lui confier de plus en plus de pouvoir en matière de compétences au sein même d'un périmètre qui est notre intercommunalité, ce qui n'exclut pas, comme on l'a vu, un contrat avec la métropole pour l'aménagement de Pérol, où nous sommes, en tant que voisins, en tant qu'opérateurs, nous avons été choisis. Effectivement, il y a d'abord une diversification au sein de l'intercommunalité. Ensuite, il n'est pas exclu qu'on prenne d'autres marchés.
Alors, aujourd'hui, en tant que SPL, nous ne pouvons travailler que pour nos actionnaires. Donc, la métropole est un actionnaire de la société, donc nous pouvons travailler pour la métropole. Par contre, nous ne pouvons pas travailler pour la commune de Pérol. Donc le contrat et le mandat que nous avons passé, nous l'avons passé avec la métropole de Montpellier et pas avec la commune de Pérol. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons travailler qu'avec les actionnaires de la société. Demain, il n'est pas exclu que le territoire bouge aussi. Je n'ai pas de boule de cristal. Donc on pourrait aller chercher des marchés ailleurs, mais il faudrait que les personnes avec qui nous travaillons intègrent le capital et soient actionnaires de la société. Donc c'est la condition. Donc aujourd'hui, on n'a pas de concurrence sur le territoire. Si, des aménageurs privés qui pourraient... les communes ne sont pas obligées de passer par leur aménagement. Après, on a créé un climat de confiance avec les communes qui nous ont confié des concessions avec l'agglomération. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre développement, il est au sein du territoire de l'agglomération. La métropole nous a confié pour la première fois un mandat et derrière peut-être qu'il y aura des travaux et du coup c'est aussi des perspectives pour la société. On cherche de toute façon toujours à se développer sur des sujets peut-être encore plus pointus. Et au niveau du territoire, je dirais ça c'est une stratégie politique que je laisse aux mains du conseil d'administration et de ses membres.
Merci. Monsieur Bourguet, tu... Moi, bon, vous le savez, depuis le début, je trouve que ce dossier, financièrement, il bat de l'aile. Il bat de l'aile pourquoi? Parce que les choses sont faites à l'envers. Quand on regarde l'étude hydraulique, vous nous avez dit qu'on a réduit le périmètre à cause de la crue de 2014, mais ce n'est pas ce que dit le cabinet en Europe. Et si on a de la mémoire, on sait très bien que la Cadoule, quand elle a débordé en 2002 ou en 2003, c'était au moins autant, et peut-être plus qu'en 2014. Donc on ne peut pas continuer à faire confiance. Là, on est en train de vendre des lots alors qu'on n'a pas encore la DUP, on n'a pas encore la mise en conformité avec le PLU. Donc de nouveau, on va perdre de l'argent parce qu'il va y avoir encore des modifications, il va y avoir encore des choses qui ne vont pas aller. Donc votre planning, il est bien trop optimiste pour que je puisse m'y conforter. Alors évidemment, on voit bien que la commune est caution à 80% de tous les emprunts. Je trouve ça assez risqué. Voilà, pour moi, c'est une opération très risquée parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines et c'est pas encore... voilà.
Monsieur Frappoli.
Oui, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Bourguet. Mais en même temps, vous nous dites que vous n'êtes propriétaire qu'à 45% des terrains. Or, est-ce que le budget que vous nous avez présenté là, il est basé sur ces 45% ou sur les 100%? Ce qui fait qu'on risque d'avoir des surprises quant à peut-être l'achat de prochains terrains, à condition même que vous puissiez les acheter.
On est naturellement sur un budget avec les 100% de fonds soutenants. Sinon, on ne pourrait pas vous présenter un crack. Ça serait présenter un faux. Donc,
du coup, oui, madame. Donc, à ce moment-là, on est un peu dans l'utopie, dans la présentation, finalement.
C'est la prévision.
On ne peut pas présager aujourd'hui à combien vont être expropriés les terrains. C'est ce que veut dire Alain.
Oui, voilà. Bien ça.
Et on a vu, et on voit ce qui se passe à Bayard, par exemple, pour le lac. Oui. Donc, si vous voulez, là, on est dans un dossier où on va plus vite que la machine. Et depuis le début, depuis 2006, c'est comme ça. Normalement, on fait un projet, on fait une ZAC. Quand la ZAC est finie, on fait un projet dessus. Là, on avance, on navigue à vue depuis 12 ans maintenant. Et on est toujours en train d'augmenter les coûts, Et in fine, on ne sait pas où ça va nous mener.
On augmente des coûts.
Les coûts. Les coûts ne cessent d'augmenter.
On vous dit que le budget est excédentaire de 3,3 millions qu'on est arrivé.
Ça, c'est vous qui le dites. C'est un chiffre. Moi, je peux l'écrire. Je dis, voilà, je vais entendre mes carrières, 3 700 euros, ça fait tant de bénéfices, mais c'est pas ça.
Monsieur Bourguet, on est ici dans un conseil municipal.
Vous n'avez pas les terrains, vous n'avez pas toutes les études, vous n'avez pas la DUP, vous n'avez pas la conformité avec le PLU. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vendre tout ça, 3 700 euros le mètre carré, aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Bien.
Peut-être dans 3 4 mois, oui, mais aujourd'hui, non.
Ben, on est en train de vous dire que la commercialisation va être lancée.
C'est une erreur.
Ça, c'est votre point de vue. On vous donne des échéances parce que nous, nous savons où nous allons. Voilà, c'est tout. Alors, posez des questions techniques, pas des questions d'arbitrage de stratégie. Monsieur Pradeil.
Excusez-moi. Là, en fait, on traite de deux délibérations à la fois, hein, en termes techniques.
En termes techniques.
Oui, c'est pour avoir le bon ordre du... Je commence par la première. Vous souhaitez qu'on ait un échange plus positif?
Moi, je ne souhaite rien du tout. Ce que je dis, c'est que la place de la cellule administrative est autour du conseil pour éclairer sur ce qui est technique. Souvent, vous déplorez de ne pas avoir l'occasion d'avoir le renseignement précis sur tout ce qui est ingénierie. Ensuite, viendra le deuxième temps, quand mon collaborateur sera sorti, si vous souhaitez poser une question qui n'appelle pas un commentaire en termes d'ingénierie financière ou d'ingénierie sur certains choix, si vous
voulez. Donc on commence technique et on échange entre nous après plus politique. Donc sur la première délibération et sur votre volume de chiffre d'affaires, je voudrais revenir moi sur les considérations de la Chambre régionale des comptes qui à l'époque nous avait attiré notre attention sur le fait que le chiffre d'affaires était peut-être trop faible pour pouvoir avoir un outil efficient. Au vu de ce que vous me proposez là, je vois un chiffre d'affaires qui est un peu en dents de scie et qui, par exemple, sur les AMO, a des pointes et a des baisses. Donc ça attire ça, parce qu'on peut se dire, en tant que conseiller municipal, on a un super outil, c'est super, mais comment vous faites pour garder la même efficacité si vous avez des années très creuses où vous ne pouvez pas garder des masses salariales et des années très, très, très pleines où on vous demande des gros dossiers. Donc par rapport à ça, ça réactualise un petit peu là, les pointes d'efficacité, réactualise la remarque de la Chambre régionale des comptes en nous disant sur les AMO, est-ce que vous avez les capacités en interne d'affronter l'ensemble de ces dossiers? Et est-ce que notre stratégie, s'il ne s'agit pas de se développer, il s'agit de servir au mieux les collectivités. Je pense que c'est l'ensemble de ce que dit le conseil d'administration. Donc, comment vous faites pour votre masse salariale, pour pouvoir garder les compétences et pouvoir les libérer quand on se retrouve avec des replis de chiffre d'affaires?
Alors, sur le chiffre d'affaires, hein, toutes les SM et SPL sont confrontées aux mêmes questions, hein, puisqu'on a, quand on notamment on vise des concessions d'aménagement, qui sont des contrats de longue durée qui nous assurent des rémunérations. Je dirais qu'on peut échelonner sur plusieurs années. Les AMO, on n'est pas du tout dans cette même logique, hein, vous avez raison. Donc aujourd'hui, on a structuré la société avec 12 personnes et on a aujourd'hui une visibilité, je dirais, à 4-5 ans sur des concessions nouvelles qui sont rentrées, qui vont rentrer dans des phases de travaux et de commercialisation qui nous permettent une rémunération. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut assurer et qu'on a besoin, en fait, de ce personnel pour pouvoir assurer à la fois les missions d'AMO et les missions en concession d'aménagement qui sont, je dirais, chronophages en termes de temps passé. Après, on est dans une société de droit privé, donc nous, on essaiera de maintenir ce chiffre d'affaires pour assurer, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il nous faut à peu près plus d'un million d'euros pour pouvoir assurer ce personnel. Puis après, comme dans toute société, si demain, on n'avait plus rien du tout, eh ben, on développera une autre stratégie vis-à-vis du personnel, c'est-à-dire comme toute société de droit privé.
Donc le sens de ma question, c'était de savoir si vous aviez un réseau de compétences extérieures et freelance. C'est pas le cas. Vous êtes analysé systématiquement.
Alors non. En fait, on a des métiers auxquels on fait appel à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple la SET, donc Société Centrale des Clients du Territoire, qui est associée à la Caisse des dépôts et consignations, donc des territoires, donc, dont on fait partie, et donc du coup qui nous amène une ingénierie financière technique sur des sujets plus pointus, dans lequel nous, on n'a absolument pas vocation, si c'est one shot, à embaucher une personne avec tel profil, si c'est pour une opération. Donc on va faire appel à cette compétence-là. Après, on externalise beaucoup de choses, on externalise aussi les cabinets d'avocats. Voilà, donc, du coup, toutes ces compétences sont externalisées. Par contre, le métier de chargé d'opération, il ne peut pas s'externaliser. C'est une compétence bien particulière, il ne peut être qu'au sein de la société.
Je faisais cet ensemble de remarques parce que ça, je ne sais pas si vous savez, mais on est sous contrainte d'État de contrôler notre fonctionnement avec une baisse de pourcent. Je parle sous le contrôle de notre adjointe aux finances. Donc, on est sur tous nos services, on fait extrêmement attention à avoir des services efficients. Et je ne parle pas de la qualité des personnels ou des partenariats, hein, mais je parle simplement de l'effet ciseau que vous nous avez décrit dans ces chiffres-là. Ça ne peut pas faire de la bonne gestion. Donc ça veut dire, là, au vu des chiffres que vous nous présentez, vous avez un effet de montagne russe qui me semble inquiétant.
Je suis d'accord. Il y a deux aspects. On vous a quand même essayé de vous projeter des résultats à l'équilibre à chaque fois. Le deuxième point aussi, c'est qu'on a quand même, il est possible qu'une année soit déficitaire. On a quand même un peu plus d'un million de fonds propres sur lesquels aujourd'hui on peut très bien puiser sur une année ou qui sera vraiment plus difficile. Donc ça aujourd'hui, c'est là, on a un million de quelque chose, on peut aller chercher dans ces réserves-là. On a quand même solide financièrement. Donc après, ce que Frédéric dit, ce qui est important, c'est vrai que cet effet ciseau-là, on peut l'avoir à un moment où une activité un peu plus basse sur les AMO, mais normalement, on essaye de prolonger par les AC. En fin de compte, des fois, on est obligé d'investir très fortement dans les AMO, et c'est comme ça, en fait, c'est très haut sur les AMO, et c'est très bas l'année suivante, mais c'est le relais qui vient derrière sur la ZAC. Donc c'est vrai que ça paraît très dangereux sur les AMO, mais on essaye de trouver un équilibre sur les AC aujourd'hui. Mais on remonte aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a signé des mandats aussi, pour essayer de trouver un équilibre, et notamment une régularité sur ce chiffre d'affaires.
D'une manière générale, la SEM, quand elle était SEM, se contentait, entre guillemets, souvent de la part congrue qui était celle de l'AMO. Souvent, elle déléguait à Topaz, si vous avez suivi l'actualité, je le sais, pour être opérateur. Aujourd'hui, à l'image du recrutement de M. Bassinet, en termes de ressources internes, au lieu d'externaliser certains services financiers, nous avons estimé, et on a pris la calculette, qu'il est plus intéressant, plus rentable d'avoir l'ingénierie, l'intelligence à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui n'exclut pas, de temps en temps, l'appel d'un cabinet expertise. Voilà. Donc, on est passé d'une phase où les AMO étaient le quotidien, avec de temps en temps une cerise sur le gâteau qui était une concession d'aménagement. Aujourd'hui, à l'exception peut-être d'une commune, je pense à Palavas, pour des raisons peut-être de contraintes foncières, on vient de livrer le plan des aires à Mudaison, on est sous la ZAC des Châtaigniers à Saint-Aunès, on est en plein, succédant à un privé, le Maladie Prunier, on est sur un futur, la zone des Conques à Lansargues, on est sur les Roselières à Valergue, à Candiargue, il y a eu, c'était avant, et à Moguio, maintenant, on est sur la fonte de Moguio, avec un magnifique projet, en termes d'importance en tout cas, j'espère pour la commune que ce sera magnifique, la ville porte pour la Grande Montée. Donc, il y a quand même des recettes dans l'inscription d'une vision et d'un temps qui n'est pas celui que d'une simple exécution budgétaire, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a de la visibilité, si vous voulez. Vous avez regardé tout à l'heure le chiffre d'affaires des trois dernières années, il monte régulièrement. Et si l'on monte également en compétence en recrutant le chargé d'opération, où il y a deux ans, Madame Boin qui est venue faire un petit peu l'interface entre la directrice, Madame Sori, et l'ensemble des autres agents pour justement la délaisser de certaines missions, prouve que la structuration est un acte administratif qui vient conforter un volume d'activité qui est croissant. Alors là-dessus, je pense que là-dessus on est d'accord. La visibilité des AMO, la visibilité des concessions d'aménagement nous amène pour Mouliot jusqu'en 2028, la Grande Motte 2030, Saint-Onaise, mais je ne sais pas, il y a quand même un échelonnement qui nous permet d'avoir vraiment du grand monde.
Parce que
si vous voulez, en fait, moi, je pense qu'il y a deux variables. Il y a la première variable, c'est ces effets de ciseaux qu'on a constatés. C'est la première variable. La deuxième variable, quand on est autour de la table du conseil municipal, c'est de se poser la question où on met l'intelligence en termes d'urbanisme. Est-ce qu'on la garde à l'intérieur des services de la commune? Est-ce qu'on la fait remonter à la métropole? Est-ce qu'on la met à la SPLA? Et là, il y a des questions politiques et stratégiques qu'il faut poser. Et c'est une autre variable, avec deux sous-variables, l'efficacité et après la capacité aussi d'auto-analyse.
Monsieur Bernard Cassard, vous pouvez vous dire tout à l'heure que la SPL a comme mission la révision du PLU, c'est-à-dire que tout est dans tout. Nos services travaillent de concert avec la SPL, laquelle travaille avec la métropole quand on a un projet qui croise des enjeux communs. Les enjeux de territoire sur le terrain de la branche sont des enjeux communs. Et les SCOT qui viennent aussi là-dessus parachever les documents d'urbanisme plaident quand même pour une intelligence collective. Ce qu'on fait avec la région ou avec le département, quand on travaille sur le pont de Pérol, sur le franchissement du pont de Pérol que VNF va relever, quand on discute avec les techniciens de la région, ou avec les techniciens du département, ou les élus de la région du département, tout le monde s'accorde pour une intelligence collective. Et l'urbanisme, vous avez raison, c'est l'écriture de la vie de demain. Mais pas que l'écriture des villes, l'écriture fonctionnelle. Je pense que là-dessus, on se retrouve assez naturellement et assez facilement, je pense. En tout cas, je le souhaite, au plus tôt.
J'ai une question un peu technique. Si j'ai bien compris, donc en 2018, vous devriez contracter un nouvel emprunt de 2 millions d'euros, plus une ligne de crédit ouvert de 2 millions d'euros. Voilà, je voulais savoir un peu où ça en était. Est-ce que vous avez obtenu le crédit, les emprunts, puis une ligne de crédit ouverte? Est-ce que ce n'est pas un peu cher? Est-ce que ce n'est pas un choix cher aussi en termes d'agio?
Alors, deux points. Le premier sur l'emprunt, on ne l'a toujours pas lancé, puisque ça a pris un peu de retard, donc... Là-dessus, on le fera certainement au premier trimestre 2019. C'est pour le financement des travaux. La deuxième, la ligne de crédit, ça permet en fait d'être un peu plus flexible. Et c'est le temps, ça finance une partie des travaux, certes. Mais en fait, le temps qu'on signe entre les compromis et les actes authentiques, il y a une phase, on va dire, de 10 à 12 mois. Et on ne peut pas signer un emprunt pour 10 ou 12 mois. Et du coup, on demande une ligne de crédit. Les taux aujourd'hui sur les lignes de crédit sont plutôt bas. Je ne les ai plus en tête, mais on en a signé un récemment sur les châtaigniers. Et 0,70 de taux. Quand on voit qu'un taux fixe sur 5 ou 6 ans, on en a signé un récemment, on est à 0,66 ou 0,61. Donc ça joue sur pas grand-chose. Ça nous permet une certaine flexibilité, en fin de compte, de prendre une ligne de crédit qui est plafonnée. Il y a un montant maximal et en fait on le rembourse très rapidement par la signature des actes.
Les comptes donc de la SPLA sont certifiés par commissaire aux comptes,
oui.
Et les budgets,
oui.
Vos budgets, les prévisionnels?
Non, pas prévisionnels, non. D'accord. Juste les comptes.
Si vous permettez, sur la deuxième délibération, celle qui porte sur le compte rendu, sur la ZAC de Mongliot, donc une série de questions un peu plus techniques. J'ai vu passer 15% de logements abordables, puis 25% de logements sociaux. Des fois, on a des effets de vocabulaire. Oui, voilà. Et donc, si on voit ça une jolie idée, on se dit, ah, la télé est jolie, et il y a un peu de logement social, et on repart content.
On a des engagements par rapport à la loi SRU, et je voudrais, c'est là-dessus que je voudrais discuter. 70 000 mètres carrés de plancher, 740 logements, donc 15% de logements abordables. Alors, quelle est cette notion et par rapport à nos engagements de la loi SRU, quel est le choix que vous avez fait?
En fait, il y a bien 31% de logements sociaux, donc dans les 740 logements, il y a 31% de logements sociaux, et en plus, il y a 15% de logements abordables, de logements locatifs aidés, ce qu'on appelle le PLS ou le PLAI. Donc on est en adéquation avec les objectifs du PLH et on travaille avec l'agglomération et c'est également de la communauté sur ces sujets. Et en plus, on a introduit dans l'opération 15% de logements abordables. Donc ils sont des logements un peu moins chers que le logement en accession libre. Voilà. Donc c'est un objectif qui est inscrit dans le PLH de l'agglomération. Donc ça s'additionne en fait aux 31%.
Ça se suradditionne. Oui. Alors sur la phase 1, vous nous annoncez 25% de logements sociaux. C'est une grande satisfaction, puisqu'on était parti dans une réunion publique à 19% et nous montons à 25%. On ne s'est pas fréquenté pour rien. On a bien fait de délibérer.
Mais on a travaillé.
Mais alors, que s'est-il passé pour les 5% manquants? Alors, la question moi, que je vous pose, c'est. La question que je vous. Mais on aura les choses tout à l'heure, hein, monsieur Valdavant. La question que je vous pose, c'est pourquoi on, les promoteurs, surtout notre PLH, dit il faut faire 30% sur toutes les opérations, par immeuble, par opération, hein. Et pourquoi nous, on se tient à 25%?
C'est sur l'ensemble de l'opération.
Alors vraiment, de mémoire, monsieur l'adjoint à l'urbanisme, c'est même, il y a un codicile pour la ville de Mongio qui dit que dès qu'il y a plus de 6 appartements, on tombe à 30%. C'est à partir de 12 pour l'ensemble de la du pays de l'Or, mais à partir de 6,
par opération.
Et bien donc, que se passe-t-il? Où est le tour de passe-passe que je n'ai pas compris?
L'opération, c'est l'ensemble de la fonds de Mogio. Sur l'ensemble de la fonds de Mogio, il y aura 30% de logements sociaux. Okay. Sur la première tranche, il y en aura 25. Sur d'autres tranches, il y en aura 42 ou 43. Mais... Et sur l'ensemble, on arrivera à 30% de logements sociaux.
Vous êtes encore plein d'espoir, mais moi, en 2026, je serais bien vieux. Vous ne prépareriez pas qu'on fasse 2021 tout de suite, hein. On fasse nos 30%, comme ça, on sait qu'on arrive dans une situation où on a fait quelque chose d'utile.
C'est pas comme quand on se verse une dose d'apéritif. Vous savez très bien, M. Pradeil, que la configuration permet parfois, en fonction de la typologie des logements, s'il y a du lot libre, pas du lot libre, du semi-collectif ou du collectif, en fonction des hauteurs que l'on veut aussi adéquates avec la topographie, vous savez comme nous qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, y compris au niveau de la première tranche ou au niveau de ce qu'on appelle les oreilles, vous avez appelé ça les quoi? Les oreilles de Mickey. Nous aurions aimé disposer d'une emprise un peu plus importante, à ce moment-là on aurait pu augmenter également, parce que l'opération, il faut aussi qu'elle tourne. Donc, on est dans le respect absolu. On est dans le respect absolu. De toute façon, les prix que nous sortons sont des prix qui sont inférieurs au prix du marché.
Donc, ça tiendra le contrôle de l'égalité, par exemple?
Sans aucun souci.
Oui. Par rapport au PLH.
C'est le PLH. Moi, je veux... Monsieur Cassard, la semaine dernière, représentait l'intercommunalité, puisqu'il est vice-président au niveau du... Dis-le. Du Scott, là.
Au niveau de la commission de l'environnement, de la protection de la nature et forestière et agricole.
Ils vous ont mis, vous?
Du CDPNA.
Et pourquoi non?
Demandez-leur pourquoi ils m'y ont mis, je ne sais pas. C'est moi qui représentais effectivement l'agglomération au niveau de cette commission pour présentation du Scott. Et nous avons eu les félicitations de la préfecture les félicitations de cette commission.
Bon, je vous redis mon désaccord. Ça fait 35 logements, hein, la différence entre 25% et 30%. Ça fait 35 logements si mes souvenirs sont bons. Vous n'arrivez pas à trouver 35 logements ?
Franchement, il y a beaucoup.
Moi, ça fait 6 mois qu'on en parle, et en 6 mois, vous ne trouvez pas 35 logements ?
En 6 mois, on a
deux. Je suis déçu, moi, je croyais en vous. Je suis déçu. Donc, non, mais c'est important, si on loge 35
logements. On est dans la deuxième
partie. Oui, on est dans la deuxième partie. Je suis d'accord.
Je vais demander à Mme Souri et M. Bassinet s'ils ont plus de questions.
J'ai encore une ou deux questions techniques.
Alors.
Sur les 11 hectares, ces 11 hectares auxquels nous avons renoncé par rapport aux portées à connaissance. Nous les avons acquis pour, si j'ai recompté, pour à peu près... Non, ça fait 6 millions d'euros en tout. Ça fait 6 millions d'euros, il me semble. J'ai lu vos documents, mais ça fait à peu près 6 millions d'euros. Donc, on nous dit, non, c'est de l'inondable, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ces 6 millions d'euros, ils sont. Je voudrais vraiment rediscuter avec vous pour bien comprendre qui les porte, qui les paie et comment ça se passe. Je voudrais savoir quelle partie est portée par l'opération et quelle partie. Est porté par la commune. C'est normal qu'on se répartisse, mais je veux savoir à quelle hauteur pour qu'on puisse discuter doctement quand on sera sur la place.
Laissez
la répondre, monsieur le maire.
Je réponds juste techniquement, après le reste, ça n'a pas de... Les 11 hectares, en fait, on a acheté à 23 euros du mètre carré, on a racheté à la commune. Quand on a acheté l'intégralité, il y avait 11 hectares, donc ça représente 2,5 millions. On a recalculé, c'est énorme. Donc, ces 11 hectares qui sont maintenant sortis de l'opération, on les a revendus à la commune, plus à 23 euros, mais on les a revendus à 5 euros du mètre carré. Donc aujourd'hui, ils ne font plus partie du bilan de l'opération. Donc ils font partie du bilan de l'opération dans les frais.
Donc en masse d'argent, ça veut dire combien porte la commune, combien porte l'opération?
Oui, la commune, elle a 2 millions... Elle a 5 euros fois 11, donc elle porte aujourd'hui 550 000 euros de foncier.
La commune a racheté autant 557 000 euros les 11 hectares. Donc voilà, et nous on avait payé 2,5 millions. Donc la ZAC aujourd'hui elle porte un différentiel de 2 millions.
La ZAC porte, pas la commune, vous l'avez dit.
Non, c'est une répartition.
La ZAC elle porte 2 millions aujourd'hui.
La ZAC porte 2 millions.
C'est ça.
Donc ce qui veut dire, c'est une question vachement importante parce que ça plombe, pardon du terme, mais ça pèse sur l'équilibre et donc sur le prix de revente. Ah non. Si, ça compte. Quand vous les avez achetés et vous les portez dans les frais, donc vous devez équilibrer. Et ça m'étonnerait que les autres administrateurs des autres villes vous les aient fait remonter dans les hors de l'opération. Donc ça porte, s'il y a 2 millions qui portent, c'est ça que vous êtes en train de venir sur 2,5 millions, il y a 2 millions qui sont portés par l'opération elle-même et dans l'équilibrage de l'opération. Et on se le dit. Quand on part avec 2 millions pour équilibrer, c'est vrai que vous. Avec 2 millions, on doit pouvoir faire une quarantaine de logements sociaux, quand même. Non, mais je le dis en plaisantant, mais on cherche l'argent, là. 2 millions, c'est une vraie masse. Et le fait que la commune prenne 500 000 et l'équilibre de l'opération prenne 2 millions, ça, il me semble que ça fait partie du débat qu'on doit avoir entre nous quand vous rendez compte. Je pense que c'est une information très importante. Pareil pour la deuxième question. Vous évitez systématiquement, je ne vais pas le formuler comme ça, je n'arrive pas à avoir quel est le prix du foncier, quel est le prix de revente du foncier. Vous avez expliqué dans une première approche que vous faisiez des concours, des consultations en disant que ce n'était pas la question. Vous nous faites quand on a été amené à discuter des colors, la question s'est posée aussi. C'est très important pour savoir pour la bonne gestion
de savoir ce foncier qu'on a acheté à 23 euros, à combien on le revend, et est-ce qu'on a bien fait d'aller sur cette opération-là ? Est-ce que le privé n'aurait pas fait mieux que nous ? C'est une question qui s'entrave, ça. Donc, par rapport à ça, moi, pour avoir de la transparence, donc je réitère la question, parce qu'au vu de vos projections, je n'ai pas été tout à fait rassasié sur les questions que je vous posais. Première question, quel est le prix envisagé ? Il n'y a pas de presse en plus, donc on risque rien. On peut, si c'est un secret, on est rien qu'entre nous. Quel est le prix cible et qui va relever nos coûts pour savoir si on est hors marché du foncier ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on a une approche différenciée entre le logement libre, le logement aidé, le logement purement social ? Est-ce que c'est une approche très différenciée ? Donc ça, c'est des discussions qu'on doit avoir quand on rencontre.
Il y a une décision qui est politique. Elle n'est pas technique, celle de confier à un aménageur public une opération où on veut inclure les gens et non pas les exclure. Il est de notoriété publique que les opérations privées sont de nature à générer de l'argent pour le privé, qui se conforme bien entendu aux lois de la République en termes de logement locatif aidé. Néanmoins, ce que nous avons nous souhaité introduire, la dimension que nous avons souhaité introduire et qui est nouvelle, c'est l'habitat participatif. L'habitat participatif n'est pas une opération pour gagner encore plus d'argent. C'est une opération pour associer davantage les citoyens à un mode de vie, à quelque chose qui est nouveau, qui est novateur, et où on veut justement qu'il y ait une ouverture supplémentaire à des personnes qui sont déjà dépossédants ou pas, et qui libéreront des terrains ou des habitations en centre-ville. Vous avez une différenciation entre le logement abordable, qui ne fait pas partie du logement social, mais qui est voulu par la loi, par notre PLH, qui fait que vous avez quand même, en tout, vous avez au moins 4 variétés de prix. Le lot libre, pour celui qui a les moyens de s'acheter un lot libre, à 515 euros. Vous avez, là il y a 20 lots, vous avez 11 lots qui sont inférieurs à 300 mètres carrés pour des gens qui correspondent au profit de ceux qui étaient éligibles au prêt à taux zéro, qui n'étaient pas propriétaires, c'est-à-dire de nouveau les futurs nouveaux propriétaires, où là vous avez des lots à 485 euros. L'habitat participatif est à 470 euros hors taxes en surface de plancher, et vous avez ensuite les autres lots où vous avez des prix capés, des prix de sortie capés, pour ne pas que l'opérateur gagne de l'argent sur le travail qu'a réalisé la commune et la SPL. Je pense on vous donnera une fiche, si vous voulez, dans le compte rendu, dans laquelle on séquence logement abordable, logement social et logement pour les primo-accédants. Voilà.
Si on n'est pas en capacité de me répondre tout de suite sur le prix de vente du foncier, je ne parle pas, moi, de la surface de plancher, de l'ancienne chaude, je parle du foncier, parce que c'est universel.
Juste, M. Pradet, en fait, quand on vend dans une opération d'aménagement à des promoteurs, on ne vend jamais du mètre carré de foncier, on vend de la surface de plancher. Donc je ne peux pas vous donner le prix de foncier, puisque ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, le prix de foncier, quand on indique, là, sur cette diapo que je vous ai remise, on vend du foncier pour les lots à bâtir. Donc ça, quand on vend à un particulier, on vend une parcelle de 300 mètres carrés, de 250 mètres carrés, ça, on lui vend là, au prix que je vous ai indiqué, donc 485 euros, CTC, le mètre carré. Donc on vend du foncier. Par contre, à un promoteur ou un bailleur social, on ne vend jamais du foncier. Pour lui, ça ne veut rien dire. Si on lui vendait 400 euros du mètre carré de foncier, il ne s'y retrouve pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien il va pouvoir construire de surface de plancher. Et donc le terrain vaut par la surface de plancher que vous vendez. Donc n'importe quel aménageur privé ou public ne vend que de la NPC.
Au moment où un promoteur a du foncier à disposition et un tarif, s'il lui n'entre plus, il sait combien il peut faire de plancher.
Oui, mais je ne peux pas vous donner l'indication. Enfin, techniquement, c'est impossible que je vous dise à combien je lui vends la matière de foncier, puisque je ne lui vends pas du foncier, je lui vends de la SVP. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand un promoteur vient, son produit de Mogio vient acheter un hangar route de Montpellier, par exemple, il ne va pas acheter au propriétaire en mètre carré de foncier, il va lui acheter de la SDP. Donc la valeur de son terrain, elle ne prend de la valeur que lorsqu'il peut construire.
Je vais vous dire où est mon inquiétude. prenons l'habitat participatif, pas parce qu'on l'aimerait moins que les autres, c'est même l'inverse, mais parce qu'on le connaît mieux, puisqu'on l'a traité en conseil municipal. En conseil municipal, on nous a demandé de nous positionner en disant la cible de vente, c'est 3700 euros le mètre carré. Quand j'ai demandé quel était le tarif du foncier mis à disposition, on a dit on n'est pas en mesure de le faire.
470 euros du mètre carré de SDP.
Et aujourd'hui, on nous dit 470 euros de SDP. Et alors, je me dis, mais la différence entre les 470 euros de SDP là et les 3000 euros cible, vu qu'il y a dans le tour de table qu'une association et FDI, qui marge dessus ? Où est-ce que ça passe ?
Alors,
si vous voulez, moi, on a besoin, parce que si vous voulez, je lis pour les conseillers municipaux, on va aller au contact devant la population, c'est une opération en recettes, en dépenses, qui coûte 32 millions d'euros. Vous en passez en investissement 4 millions et demi par an. Là, il y en a 32 qui sont sur la table, on ne les contrôle pas plus que ça. Et ça va générer, si on allait jusqu'au bout, ça va dérouler à peu près un chiffre d'affaires, un combien entre 120 et 150 millions d'euros. Pour les promoteurs, au bout du bout. Et vous ne voulez pas mettre plus de contrôle que ça, on a une discussion une fois par an sur le crack. C'est pas possible. Il faut quand je vous demande quel est le prix. Alors si je comprends que le prix de vente du foncier puisse être un enjeu. Mais au moins, dites-nous le prix de revient. Vous avez acheté des terrains agricoles. Vous allez mettre une DUP et vous n'êtes pas capable de dire à combien vous les revendez par là.
Mais où vous l'avez vu ça ? Où vous l'avez vu ça ? C'est ce que vous demandez, ce référencement, montrez-le-moi quelque part. Il n'existe pas. On vient de vous expliquer que c'est dans la surface de plancher. M. Pradeil, si ça existait, on vous le dirait. Ça n'existe pas.
Monsieur le maire, quand vous aurez la fin, arrivera un jour où vous nous ferez un bilan des activités et vous nous direz, j'ai vendu tel terrain de telle superficie à tel promoteur. On fera une règle de 3 et on aura le résultat. Je préférerais qu'on en parle avant plutôt qu'on en parle après, c'est tout. C'est tout. Et ne me dites pas que c'est impossible. Tout le monde fait ça systématiquement. Systématiquement. Le prix du mètre carré et le prix à la revente sur n'importe quel petit quartier, petit projet communal, la moindre commune qui fait... lotissement communal, on a un prix de sortie. Enfin,
vous avez peur de quoi ? Combien il trouve ?
J'ai peur de rien. Je veux simplement faire le job.
Ben, dites que la SPL ne le fait pas.
Non.
On va vous faire sortir, je
crois. C'est tout l'inverse, monsieur le maire.
J'ai encore une petite question. Ah. Une petite. Vous avez parlé. 3000 euros de mètre carré pour les trucs accessibles, sans parking, hors parking. Quand on sait les difficultés de stationnement qu'on a déjà dans ces quartiers, on va vendre des lots hors parking, ça veut dire que les gens vont aller se garer dans les lotissements existants. Donc pourquoi avoir fait ce choix ?
Je me suis mal expliqué, c'est qu'il y a des parkings, puisque le PLU oblige à réaliser des parkings, mais par contre le prix... Là, qu'on vous présente, il est hors parking.
Mais ils seront obligés d'acheter un parking.
Oui, de toute façon, on est obligé de faire du nombre de places de stationnement.
Non, je ne parle pas du nombre de places. Oui, oui, oui. Je parle qu'ils seront obligés d'avoir deux places de parking pour chaque logement. Donc, ça va augmenter le prix du logement. En fait. Il sera plus de 3 000 euros le mètre carré. Et combien vous coûtez les parkings ?
Je n'ai pas encore le montage des promoteurs.
Bien, je crois qu'on va remercier Mme Sauvé et M. Bassier. Merci pour votre disponibilité, votre présence et vos explications. J'espère permettront à tout un chacun de mesurer les objectifs, la manière de faire, puisque c'est... 12 personnes qui travaillent pour le compte de l'intercommunalité et des communes.
Merci.
Au revoir. Voilà donc, nous sommes donc sur le projet délibération 1. L'approbation, 1 et 2. Non, on va le voter ensemble.
Non.
On ne va pas le voter ensemble. Donc, on est sur l'approbation du rapport annuel au titre de l'année 2017. Voilà. Donc, moi, de toute façon, je m'abstiens. Je ne prends pas part au vote. Mais ça n'empêche pas que si vous avez d'autres questions, c'est comme ça, vous-même, on peut répondre. Tu comprends?
Non. Alors, qui est contre? Le point numéro 1. Le point numéro 1. Qui est le rapport d'activité de la SPL
générale.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En ce qui concerne le point numéro 2, le CRAC, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Bien.
Est-ce que tu as une explication de vote sur le vote contre? Moi, je veux bien faire, je veux bien accompagner, on progresse, ainsi de suite. Mais si on n'a pas plus d'éléments, on va au-devant de grosses dépendances ensemble. Hein.
Bien. Donc, je reprends l'ordre du jour. C'est le point numéro
3.
Approbation de l'avenant numéro 3, la concession d'aménagement de la ZAC de la Fonde de Montguillot. Bernard.
Donc, on reparle de quelque chose dont on a parlé déjà tout à l'heure. Hein. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal avait approuvé la convention confiant le portage du foncier de la Fonde à l'établissement public foncier d'Occitanie. Cette convention a été signée le 15 janvier 2017 avec le PF et approuvée le 19 janvier 2017 par le préfet. Au regard du stade d'avancement de l'opération, il s'avère que certaines acquisitions ne sont pas portables par le PF. Donc, comme on vous l'a expliqué déjà tout à l'heure, il s'agit notamment d'acquisitions de terrain prévoyant en contrepartie des conditions spéciales comme la dation, comme des obligations de faire. Ça, le PF ne peut pas le faire. Il y a aussi des acquisitions où l'EPF n'est pas nécessaire, l'intervention de l'EPF n'est pas nécessaire, c'est l'acquisition de terrain entre des collectivités, par exemple entre l'agglo et la commune. Et il n'est pas utile de faire intervenir l'EPF, ce qui compliquerait encore plus l'opération. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les acquisitions qui sont déjà très avancées, très engagées, et que la SPL va finaliser prochainement. Donc c'est pareil, on ne va pas repartir à zéro avec l'EPF dans les négociations. Voilà, donc c'est la portée de cet avenant. L'avenant qui vous est proposé permet donc d'adapter les missions de la SPL afin de lui permettre de procéder aux acquisitions amiables définies précédemment, et cela bien sûr à titre exceptionnel, la mission de l'EPF étant conservée sur tout le reste. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver cet avenant qui vous est proposé.
Je m'excuse, je peux prendre la parole par rapport à ça.
Monsieur Popoli.
Vous marquez dans cet avenant qu'il y a notamment l'acquisition auprès de la commune des terrains de la pointe de Mudaison. Donc on peut dire que les terrains dits de la pointe de Mudaison n'étaient pas initialement prévus sur les 30 hectares. Je ne me trompe pas.
Oui.
Monsieur, je ne me trompe pas. Donc quand j'en ai fait état à l'occasion de mon premier conseil municipal, donc j'avais interpellé Monsieur Boël. C'était au sujet, rappelez-vous, des réunions publiques au cours desquelles j'avais mentionné le fait que vous avez fait passer donc l'acquisition des terrains de la pointe de Mudaison sur le projet de la Fonde de Montguillot. Vous vous en souvenez peut-être, hein, j'espère. Parce que ce jour-là, quand j'ai nominé ces terrains de la pointe de Mudaison, M. Bourrel m'avait traité de menteur devant tout le monde. Alors... Or, oui, M. Bourrel, alors figurez-vous que comme c'était mon premier conseil municipal, j'avais demandé à des amis présents d'enregistrer les faits. Et donc, du coup, vous me demandez aujourd'hui si je m'en tiens au qualificatif, M. Boile, que vous m'avez affublé ce jour-là, vous nous demandez d'opter pour l'achat de terrain par la SPLA de terrain mensonger. Puisque vous m'avez dit, la fonte de Moguio, c'est mensonge, M. Frappoli, c'est un mensonge. Parce que les terrains de la Fonde Moguio, les terrains de la Pointe Mulhaison ne sont pas positionnés comme ça. Et je vous ai dit, c'est faux, M. Bourrel, parce que ce sont les terrains qui sont aujourd'hui utilisés par la CUMA. Et les terrains utilisés par la CUMA sont les terrains qui, aujourd'hui, sont cadastrés CH4 et CH5 sur le projet de la Fonde Moguio. Donc, alors, je vous demande comment on fait dans ce contexte-là, dans la mesure où, M. le maire, ces terrains-là sont apparemment en mensonge. Hein. Je vous pose la question.
Vous avez bien confondu les terrains de Gomez.
Non. Les terrains de Gomez sont à droite et les terrains cadastrés CH4 et CH5 sont les terrains qui sont à gauche de l'avenue Jean Moulin. Je peux vous les montrer sur le plan. Je peux vous les montrer sur le plan. Ce sont ces terrains-là qui font partie du lot numéro 1 que vous comptez bâtir en premier. C'est ces terrains-là qui sont aujourd'hui soumis.
Oui, c'est ça, cela, oui.
Voilà. Et bien, vous m'avez dit que c'était mensonge, que ces terrains-là n'appartenaient pas à la Pointe de Mulhaison, M. Bourrel.
La Pointe de Mulhaison, c'est...
C'est tout l'ensemble, non. La Pointe de Mulhaison. C'est tout l'ensemble, tous les terrains qui sont cadastrés CH. Ah, attends, et je tiens ça du service urbanisme de la mine, M. Bourrel.
On a acheté un terrain à M. Claret, qui s'appelle...
Non, M. Bourrel. Ces terrains ont été acquis par la mairie.
C'est le terrain de Monnier.
Les terrains de Monnier qui avaient été acquis par la mairie, qui vont être rachetés par la plan. Enfin, vous allez demander est-ce qu'on vote à ce qu'ils soient rachetés par... Parce qu'aujourd'hui, ces terrains ne sont pas encore propriétaires de la SPL.
Ces terrains, initialement, n'étaient pas dans l'emprise de la SPL. Initialement, ils n'étaient pas.
Ils n'y étaient pas, nous sommes d'accord.
Ils le sont devenus parce qu'on a changé le périmètre.
Mais oui, vous avez changé le périmètre pour pallier au fait que vous avez perdu 11 hectares d'un côté pour en rattraper de l'autre. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Oui, puisque c'est un terrain qu'on avait qui équilibre l'opération, puisque ça nous permet d'avoir de part et d'autre une CD24. Ouais.
Alors, pourquoi vous m'avez traité de menteur quand je vous ai dit que ces terrains faisaient partie de la Pointe de Mulhaison, M. Bourrel?
Je ne vous ai pas traité de menteur là-dessus.
Eh si, vous m'avez traité de menteur là-dessus. C'est exactement ces terrains-là, puisqu'ils faisaient partie. Vous avez présenté ces terrains-là à l'occasion de réunions publiques que j'avais traitées d'alibi, d'ailleurs j'avais rebondi sur une prise de parole de M. Bourguet, en vous disant que les réunions publiques, à un moment donné, elles étaient déjà programmées par rapport aux finalités que vous espériez en avoir. Donc quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit, M. Rapoli, vous êtes un menteur. Et je m'aperçois aujourd'hui que je ne suis pas un menteur.
Eh bien, c'est bien.
Oui, ben, j'espère. Alors, on fait comment, là?
Mais vous venez me rechercher une histoire.
Non, je vous recherche pas une histoire.
3 mois, 4 mois.
Mais oui,
qui a rien à voir avec le point.
Si, ça a à voir. Ah si, ça a à voir, puisque vous allez nous demander. Ah si, ça a à voir.
Mais vous votez pas.
Ça a à voir. Regardez.
Vous votez pas.
C'est l'acquisition auprès de la commune des terrains de la Pointe de Mulhaison. C'est marqué, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Oui.
Donc si ces terrains faisaient partie d'un mensonge, on ne peut pas les acheter.
Les terrains dits de la Pointe de Mulhaison.
C'est les terrains dits de la Fonde de Mouillon, M. Brel, vous jouez sur les mots là. Vous jouez sur les mots.
Il y a 20 hectares.
Non, vous jouez sur les mots là.
Je joue sur rien du tout. Allez, écoutez, vous avez dit ce que vous aviez à dire.
Oui.
C'est bien.
Écoutez, je suis là pour ça quand même.
Bernard, c'est fini. Allez, on fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant, qui est relatif à la modification du règlement intérieur du conseil municipal. En tout cas, c'est ce que je vous propose, puisque, comme vous le savez, la commune dispose d'un organe de diffusion qui s'appelle le MAG, dont on a 3 à 4 parutions par an, qui avait fait l'objet d'un accord en tout début de mandat sur... une répartition des signes entre les différentes composantes politiques. Et donc, j'avais demandé à M. Frappoli, vous faites bien la transition, lors du conseil municipal qui s'est tenu à Clermont le 9 avril dernier, dans quel groupe vous vous situiez. Vous m'avez fait part de votre souhait d'être indépendant par rapport à la liste initiale sur laquelle vous aviez été élu de la Fabrique citoyenne. Donc, aujourd'hui, voilà la situation. Nous avons un ensemble de 3855 signes. Le groupe majoritaire que je préside en dispose de 1230, c'est-à-dire au moins du tiers. Et l'ensemble des formations de l'opposition dispose de 2655 signes. Aujourd'hui,
Donc, comme je le rappelle, on a 1230 signes pour le groupe majoritaire pour 24 élus. La fabrique citoyenne dispose de 1155 signes pour 3 élus. Monsieur, la formation Moguio Carnon Bleu Marine dispose de 870 signes pour 3 élus. Monsieur Pradeil, 300 signes. Monsieur Capelletti, 300 signes. Pour le moment, c'était comme ça. Donc, monsieur Capelletti nous a fait part à plusieurs reprises de cet aspect dérisoire et que de disposer d'à peine 300 signes dans un mag où on n'a pas le temps de trop exposer son point de vue, ce que un avis plus ou moins partagé par l'ensemble des personnes ici. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire, comme font toutes les entités, compris la région, c'est d'arriver, disons, à une répartition, disons, qui corresponde davantage au paysage démocratique de la représentation de chaque groupe. C'est ainsi que je vous propose de porter l'expression minimale de 300 signes à 500, avec ensuite une redistribution au prorata du nombre d'élus des formations politiques, le nombre de signes restants. C'est ainsi que je vous propose aujourd'hui. La majorité garde son expression à 1230 signes, la fabrique citoyenne 550 pour 3 élus, Moguio Carnon Bleu Marine 550 pour 3 élus, et ensuite M. Pradeil, M. Capelletti et M. Frappoli disposeront de 510 signes. Voilà la proposition que je vous fais pour essayer de trouver à chaque représentation politique le droit à l'expression qui me paraît plus en harmonie avec les demandes que vous avez formulées. Monsieur Bourguet.
Oui. Donc là, j'ai sous les yeux la loi 2121-27-1 qui gère ce genre de choses.
Mettez le micro.
Et la loi ne marche plus.
Il faut fermer votre micro, s'il vous plaît.
Ouais. Non,
c'est vrai. Ah, pardon, autant pour moi.
Merci.
Ok. Donc, alors, cette loi, elle précise bien certaines choses. Bon, que le règlement intérieur, le conseil municipal est libre de répartir comme il veut, et je n'y vois aucun inconvénient. Par contre, elle précise bien que cette page doit être dédiée exclusivement à l'opposition et non pas à la majorité. Il y a eu deux tribunaux administratifs de Versailles et de Montpellier en 2009 qui ont tranché le sujet. Ils ont dit qu'une municipalité, ce n'était pas comme un département ou comme une région, parce que le groupe majoritaire a une telle prime majoritaire qu'il s'exprime assez. C'est en ce sens que les juges ont tranché. Là, j'ai tous les textes de loi ici. Donc je demande simplement qu'on enlève les 1200 signes du groupe majoritaire. Et je vous informe en outre, et j'informe mes collègues, qu'on a le même droit sur le site internet et sur tous les documents publiés par la mairie, même exceptionnels, tous les dépliants, tous les prospectus que la commune va déplier et sur le site internet. Voilà, donc je demande simplement qu'on se mette en conformité avec la loi. Après la répartition entre nous, je me plierai à ce qui sera dit.
Bien, c'est votre interprétation. Monsieur Sanchez.
Moi, j'ai juste une chose à demander. Aujourd'hui, le conseil municipal qui est établi là, il a été établi à partir d'un vote qui s'est effectué en 2014. Et au second tour, il y avait trois listes. D'accord. Donc j'aimerais qu'on se réfère aux trois listes et au pourcentage des trois listes. Après, ce n'est que mon avis, qui est minoritaire, et je sais très bien que vous allez voter par rapport à ça, mais c'est mon avis, alors je vous le donne.
La loi, Dominique, dit clairement que c'est
la
pas...
Loi.
Oui, ben la loi.
La
loi exprime qu'en fait, on ne doit pas prendre en compte le pourcentage...
D'accord avec toi, Yann. Donc, la loi,
on n'est pas là pour appliquer la loi. Donc là, on ne peut pas faire... On ne peut pas faire en s'installant par rapport à ça. Donc c'est au 1/33e, en fait, le calcul doit être fait au 1/33e.
Je ne conformerai à rien.
Donc ça, c'est par rapport à ça. Quant à tout ce qui est documents qui concernent les prospectus, etc., ce n'est que par rapport à tout ce qui est des documents qui véhiculent des messages purement politiques.
Donc, pas du tout, pas du tout.
C'est marqué là parce que j'ai bien étudié. Ouais,
mais moi j'ai un juriste qui a travaillé dessus. De toute façon, on ira au tribunal administratif si vous ne m'entendez pas.
Ceci dit, moi je suis très très étonnée quand même, M. Bourguet, que vous n'ayez pas dès le départ été content du fait que nous donnions 500 signes au minimum à chacun. De chacun.
C'est normal que je ne sois pas content, non?
Ah bon, parce que je ne sais pas, parce que moi j'ai cru comprendre que les fondements même de la fabrique citoyenne étaient quand même l'expression de chacun et que chacun.
C'est ce que je demande aujourd'hui.
Ouais, ben oui, ben justement, voilà. Donc là il y a un problème, l'expression de chacun doit être effectivement donnée, on le prend en compte parce que le nombre de signes n'était même pas équivalent à un tweet. Donc effectivement, on le prend en compte, donc on le propose, vous compterez par rapport à ça tout de suite. Je ne comprends pas bien ce que par rapport, ça fait 4 ans là, qu'on vous pratique, moi j'ai pu voir, vous avez fait preuve d'une empathie extrême envers des gens qui ont été des relais, des soutiens sur des traductions en ce qui me concerne de comportement sur mon milieu professionnel. Vous vous êtes fait ce relais-là, sans prendre en compte d'ailleurs
vous la avez... Qu'est-ce que vous avancez là? Qu'est-ce que vous avancez là? Non, alors là je ne suis pas d'accord. Hein. Là, éteignez votre micro s'il vous plaît. Là, c'est odieux, là. Voilà, trouvez quelque chose que j'ai dit ou que j'ai écrit contre vous.
Non, je suis juste en train de dire que...
Non, alors là, non. Non, la fabrique non plus.
Ceci dit, on...
Alors là, non. Non. Je refuse.
Vous avez été porte-parole aussi, de beaucoup de causes, pour le camping, pour les usines, pour ci et là. Porte-parole, évidemment, c'est bien, vous êtes conseiller municipal, c'est très bien, vous avez fait preuve d'une très grande empathie, d'une grande sympathie par rapport à ça. Seulement, moi, je m'interroge, quand vous commencez à bloquer, dès qu'on vous dit minimum 500 signes, à tout de suite bloquer, moi, je me demande si votre grande empathie n'est quand même pas une grande démagogie au service d'une politique qui sert aux intérêts personnels. Il n'y a de part à imposer.
Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit.
Si, j'ai entendu quand vous envoyez un mail vous demandant au minimum 500 signes si vous étiez d'accord ou vous êtes opposé directement.
Mais non, parce que je n'étais pas d'accord avec la répartition par rapport au groupe majoritaire.
C'est assez étonnant. Voilà. Moi, j'exprime en tout cas mon grand étonnement par rapport à...
C'est tout. Je demande que juriste travaille sur le sujet. Voilà.
Monsieur Bourguet, je vous rappelle que depuis que... On a une tribune à l'époque ou un magazine, toutes les formations ont été autorisées à exprimer leur point de vue avec une représentativité telle qu'elle est pratiquée jusqu'à présent. Écoutez, vous avez été vous avez été élu sur 6 sièges en début de mandat, vous étiez à 5 puis à 4 assez rapidement. Vous êtes à 3 maintenant, vous perdez une part de représentativité, c'est normal, par rapport à d'autres formations. Le groupe majoritaire reste à la même professionnalité. En revanche, il me semble quand même que l'expression des composantes diverses que sont M. Capelletti, M. Pradé, M. Capoumi, mérite un espace minimum d'expression. C'est tout.
J'ai rien dit d'autre. Hein. J'ai juste dit que le groupe majoritaire n'a pas sa place sur cette page.
Bon, ça, c'est votre point de vue.
Voilà. Oui, c'est le point de vue de mes avocats. Voilà. Et ensuite, nous demandons une expression sur le site internet et sur tous les documents que vous publierez qui ont un rapport avec la gestion municipale.
Alors, aujourd'hui, le point, c'est le... comme vous l'avez
dit. Oui, c'est ça. C'est le règlement intérieur doit se mettre en conformité avec la loi.
Bien. Moi, en tout cas, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de délibérer sur l'organe d'expression qu'est le magazine municipal, puis bon, bien entendu, nous aurons un prolongement adéquat à toutes ces demandes, d'adopter les modifications proposées au règlement intérieur qui donne... Pardon, monsieur Tordé, vous avez une question, excusez-moi, j'étais parti moi de la
seconde. C'est premier... première remarque, dans la rédaction que vous proposez, on propose une délibération où apparaîtrait en fin de délibération, M. Bourguet, Mme Muller, M. Pradé, M. Capelletti, M. Frappoli. Donc si on adoptait cette délibération, on se retrouverait imprimé dans le règlement intérieur. Je suis pas sûr que ce soit
Comment c'est imprimé la réglementation?
Là, vous lui demandez une modification de l'article 32.
Non, sûr.
Donc, moi, je pense qu'on pourrait s'en tenir à la partie technique et faire un amendement qui enlèverait l'entièreté des noms, parce qu'au prochain mandat, les prochains conseillers municipaux, ils diront, tiens, il y a des dinosaures qui avaient le droit à quelques signes, ça sera complètement... Je pense que le règlement intérieur, il ne faut, faut pas mettre de nom propre dedans. C'est pas...
Oui, de toute façon, oui, ça tient pour le temps de la mandature, évidemment.
Ça tient pour la première séance du prochain conseil, puisque ce qu'on est modifié, monsieur Léon. Donc moi, en règle générale, dans un règlement intérieur, mais pas de nom propre. Donc moi, je vous propose simplement un amendement rédactionnel qui bifferait simplement la répartition pratique, puisque vous avez mis en place la règle.
Oui, mais
bien le problème.
En ce moment-là, il faudrait dire un groupe de un. Parce que,
faites la modification que vous voulez. Faites le règlement intérieur, mettre le nom des conseillers municipaux.
Qu'est-ce qui vous gêne tant que ça? Moi, je trouve que on fait droit à quelque chose au sol. C'est quoi, Pénétique?
Si on rebouge encore.
Rebouge, moi.
Non, mais on ne va pas redélibérer. Et puis, c'est une habitude. Alors, on ne met pas de nom propre dans le règlement intérieur.
C'est quoi, Pénétique?
Oui, juste par rapport à. J'ai pas terminé, hein.
on laisse finir, c'est pas poli d'interrompre.
Donc ça c'est la première partie, amendement rédactionnel. Oui. Pour en venir juste à l'esprit de la codification et à rien d'autre.
Donc ça c'est irrecevable. Ça me dérange pas.
Deuxième élément, élément plus politique, vous avez soulevé le fait qu'il fallait que tout le monde soit bien entendu, que l'expression de chacun d'enseignants se soit entendue. Donc ça, c'est ce que je peux entendre.
C'est pas fait pour vous le faire, ça aussi.
J'aimerais qu'on avance dans cette voie ensemble. Bon, vous savez, à chaque fois que je suis hors de Mogio ou dans Mogio, je dis systématiquement que dans cette commune, ça se passe mieux qu'ailleurs. Et que la vie démocratique y est plus posée, mieux réglée, et qu'il y a des moyens qui étaient mis jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il y a quelques temps, par la municipalité pour favoriser le débat démocratique. C'était ma position jusqu'au début du mandat. J'ai attiré votre attention sur le fait que dans l'expression et dans le travail fait par l'opposition municipale, il y avait quelques moyens qui étaient en suspens. Je pense à la maison Estève. Ça pose un problème parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on vous dit là, j'y suis passé, il y a du stockage. Hein, donc, bon, entre la démocratie et du stockage, j'ai vu du stockage dans la salle du bas. Quand vous avez inventé un élémentaire, vous auriez pu envisager un endroit où il n'y a pas besoin de cliquer une salle de réunion. C'est un problème de conception à la base.
Il y a deux appartements.
Je vous parle de la banque alimentaire.
Mais oui, la banque alimentaire.
C'est l'épicerie sociale.
Et puis il y a la banque alimentaire. Il y a le stockage.
Moi, quelle que soit l'approche, le fait que l'opposition puisse travailler, avoir un bureau décent, en autonomie, que je n'ai même pas fait pour le locataire avec M. le maire, qu'on ne soit pas obligé de partager un bureau. Donc il y a un endroit en autonomie, ça n'a jamais fait régresser la vie publique ni à Montbiot ni à Carnot. Donc je pense que maintenant il y a urgence de revenir à nos bonnes habitudes, et j'ai souvenir que vous avez été élu parfois sur les listes des démocrates du Pays d'Or, puisque vous avez envoyé la fabrique assez pratique. Je vous renvoie à votre propre génétique politique. Il y avait à Montbiot une certaine tenue dans la manière dont... J'espère qu'on va pouvoir finir ce mandat en disant il y a matière à travailler, ainsi de suite. Je fais aussi le lien par rapport à la disponibilité des salles. Des petites salles Agora. On vous avait prévenu que ça serait très très difficile. À l'usage, les salles Agora ne sont plus disponibles. Donc on se retrouve avec, pour les partis politiques, je vous rappelle, moi j'ai été saisi. J'ai été saisi par le PS. Je vous rappelle que les partis politiques, ils concourent à la vie démocratique, c'est leur rôle constitutionnel. Le fait qu'ils aient plus de salles pour faire leur travail, bon, j'ai proposé qu'on repasse à l'ancienne, hein, qu'on prenne la cantine ou qu'on prenne des expédients, c'est un souci. Mais ni l'opposition, ni les partis politiques, là vous nous dites, bon, on va vous prendre la moitié, ça fait
si vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon. Je préférerais qu'on se chicane sur le reste et que là-dessus, on y aille ensemble et qu'on fasse de Moguio un endroit qui n'est pas comme les autres et où on continue à avoir un débat de qualité. Donc, c'était le sens de mon intervention.
Bon, vous partez sur un autre sujet, c'est votre droit. On essaie d'aller dans le sens de ce qui va bien. Monsieur Capelletti.
Oui, alors l'origine de ma demande, en fait, que vous avez rappelé, et puis pour le clarifier vis-à-vis de mes collègues mais qui l'ont compris, donc c'est tout simplement, en fait, au niveau de l'expression dans le journal municipal, de fonctionner un peu comme on fonctionne dans ici présentement dans cette assemblée, c'est-à-dire que, bon, à peu près qu'un cas, au niveau de l'opposition, chaque sensibilité s'exprime et ça donne. Moi, j'ai bien aimé le débat qu'on a eu là sur la SLA. Je trouvais que Daniel exprimait des choses moi qui m'avaient échappé, Laurent aussi. Bon, c'est bien. Et donc, c'est tout simplement, en fait, avoir cette possibilité sur le journal municipal, parce que. On va être 300 signes, effectivement, c'est même moins qu'un tweet maintenant, quoi. Donc, en fait, on pouvait strictement rien dire. Bon, après, sur l'argument de Dominique, hein, je l'entends, mais le groupe, ça a été sympa de le faire, mais les trois listes d'opposition rapidement n'ont plus existé. Donc, après, il faut rebondir sur autre chose. Après, bon, tu.
Moi, je vois pas pourquoi tu fasses folie le prochain caractère, parce que tu peux pas parler. Je sais pourquoi.
Bon, je parlerai un peu plus, et puis tu en auras un peu. Et donc, je trouve que ça va pas.
C'est un point, Laurent, quand il demande des salles.
Oui, mais ça, c'est.
Au début, on avait demandé des salles aussi, qui nous ont été données, bien sûr, mais qui sont difficilement accessibles.
Bon, en tout cas, sur cette mesure-là, bon, ça va permettre à chacun, par écrit, d'exprimer plus que rien, quoi, voilà, puisque c'était à peu près le cas actuellement.
Voilà. Pas plus que rien, mais moins que rien.
Ah bah non, puisque tu as 556. Donc moi, si on à 510, je peux exprimer quelque chose.
On va pas parler d'un tri, mais encore 5 de points de voix.
Bien, chacun s'est exprimé, donc nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Pour. Merci. Point numéro 4. Point numéro 5. Décision modificative numéro 3, budget principal de la commune. Madame Favier, Caroline, c'est à toi.
Alors, vous savez que cette année, la commune a fait le choix d'intégrer les résultats de l'année 2017 dans le budget primitif 2018. Ce qui nous permet de ne pas faire de budget supplémentaire, mais surtout l'objectif. C'était d'avoir une visibilité des affectations des crédits budgétaires, vu l'ampleur des projets que nous avons. Par contre, après 10 mois d'exercice, il convient d'ajuster ces budgets en fonction des notifications, de l'avancée de chaque projet, des marchés attribués et des nouvelles dépenses et recettes qui sont intervenues par rapport au budget primitif. Alors, c'est l'objet de la décision modificative. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, nous devons les compléter à hauteur de 504 000 euros cette année. Alors, bien évidemment, si nous avons validé ces dépenses, c'est que nous savions qu'il y avait des recettes supplémentaires qui étaient à hauteur de 265 000 euros. Elles sont complétées par virement de 214 000 euros pris sur notre fonds de roulement et qui était initialement prévu sur la section d'investissement. Au niveau du budget d'investissement, il y a un report qui est dû à différentes raisons, souvent purement techniques, des crédits prévus en 2018 de 5 378 700 euros. Le montant de l'emprunt sur 2018 sera donc reporté sur 2019. Je vous rappelle que ce montant était de 3 650 000 euros. Alors, ça, c'est le
des opérations en général. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail pour vous donner les points les plus importants qui sont beaucoup plus significatifs. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons une consommation électrique de plus 40 000 euros. Pourquoi ? C'est juste dû au projet, l'opération Éteignons les candélabres et redécouvrons la nuit, qui est décalé puisque ça prendra le dispositif, sera mis en place au mois d'octobre. Au niveau, alors nous avons eu aussi les dispositifs de sécurité, notamment pour la fête votive. Vous êtes au courant du plan Vigipirate qui a donc demandé des frais supplémentaires de 20 800 euros. Il y a eu le projet du code postal qui nous a demandé des frais pareils supplémentaires. Au niveau des bâtiments publics, il y a eu des réparations qui n'étaient pas prévues sur les écoles, donc l'école Marion Roustan et Jean Monnet, avec la toiture de la terrasse de la maternelle qui a demandé de réparations importantes. Alors, vous allez voir dans le détail des dépenses de formation qui, alors, sur les documents que vous avez, il était prévu plus 35 000 euros. On a refait le point, bon, les documents étaient déjà partis et l'estimation sera beaucoup moindre. Alors, sans pénaliser personne, aucun de nos agents sur les formations qui étaient prévues, l'ajout sera seulement entre guillemets de 10 000 euros. Il y a eu aussi l'enquête sur les risques psychosociaux pour le bien-être des agents qui a coûté un petit peu plus cher, 18 000 euros de plus. Nous avons eu aussi des intempéries, la neige, notamment la dépose et l'évacuation du kiosque de Carnon. Et il y a des charges de personnel. Alors on a prévu sur la fin d'année, même chose, la somme ne sera pas utilisée en totalité, donc je reviendrai vers vous quand le montant sera défini. 90 000 euros. Alors il y a eu la neige qui a nécessité des interventions plus nombreuses, des manifestations qui ont été plus étoffées, de plus grande qualité, avec des anniversaires, et la nécessité de plus de personnel à chaque fois, que ce soit pour la sécurité et forcément en heures supplémentaires. Nous avons aussi eu des subventions qui ont été plus élevées. Vous savez, on a passé en délibération lors du dernier conseil, nous aidons l'école de musique à hauteur de 20 000 euros, et puis la subvention au niveau de l'EHPAD des 110 000 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, qui ont pu compenser en grande partie ces dépenses supplémentaires, alors, il s'agit des dotations, c'est-à-dire du FCTVA, plus 12 590 euros. On a eu aussi une taxe foncière, plus 73 971 euros. La taxe d'habitation, plus 51 000 euros. Les participations qu'on récupère aussi sur la fabrication des pièces d'identité, des passeports, plus 20 000 euros. Il y a eu aussi des pénalités que nous avons pu récupérer suite à la livraison de véhicules en retard. Et puis un travail de nos services auprès des mécénats et partenariats, donc suite aux fêtes du sport, de la Romeria, 4 650 euros. Donc ça, c'est au niveau du budget de fonctionnement. Au niveau des dépenses et recettes de l'investissement maintenant, alors, cette année, parmi nos gros projets d'investissement, l'îlot Prévert était déjà en APCP, crédit affecté, autorisation de programme et crédit de paiement. Cette opération, d'inscription, nous allons le reporter sur d'autres, le mettre en place sur d'autres opérations pour avoir une visibilité de nos dépenses beaucoup plus affinée. Donc, au niveau de l'aménagement du lot Prévert, il y a une partie qui était prévue 2 millions sur 2018 qui bascule sur 2019. Elle était déjà en APCP, cette opération-là. Par contre, on va mettre en APCP d'autres projets. L'avenue Jean Moulin, la rue du Saut du Loup, la dernière tranche, la Fonde Moguio, la rue François Vidot et la voirie. Au niveau des projets qui sont décalés sur 2019 du fait de contraintes réglementaires ou techniques, nous avons la mise en conformité ERP, accessibilité PMR, la réhabilitation du jardin du Bosquet à Carnon et le boulodrome mise hors d'air et casquette. Au niveau des crédits supplémentaires pour les investissements, ce sont essentiellement des subventions, dont la subvention Héro Énergie Alimentation et surtout la subvention du Conseil Général pour le barreau de liaison, plus 176 500 euros et plus 3 500 euros. Pour les recettes déplacées, ben, je vous le disais, le fameux emprunt, les 3 650 000 qui seront cette fois-ci décalés sur 2019. Donc voilà les gros points de cette décision modificative pour le budget 2018. Donc je vous demande de bien vouloir accepter cette EDM.
Des remarques sur ces propositions?
Oui, monsieur le maire, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de points qui ont été énoncés par madame. Et est-ce que ces points vont être traités un par un? Parce qu'il me semble que c'était dans le rang du jour, notamment pour le problème de l'EHPAD.
Après, ce que vous avez. Après, c'est oui. Toutes les APCP. Oui. Donc, vous avez le détail de chaque projet qui sont transformés.
Oui, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on votera à chaque fois après?
Oui.
Merci.
Sur le budget lui-même. Bon, d'abord. Les 20 000 euros pour la sécurité, comment ça s'est passé exactement? C'est la première fois qu'on en parle depuis que ça s'est passé. L'État nous a évité une facture. Comment ça se passe? Vous avez dit qu'il y avait 1 000 euros qui n'étaient pas prévus, qu'on a instauré.
Vous pouvez le dire. Tout à fait. Non, c'est des coûts qui sont supplémentaires parce que par rapport à la durée de la fête, par rapport aux exigences qui nous ont été demandées par rapport au plan Vigipirate.
Donc c'est cool sous quelle forme? C'est préconisation?
Non, obligation.
Quelle est la différence avec le budget primitif?
En termes de régie, par exemple, on était obligé chaque fois de barrer toutes les rues. Même quand on faisait, il y a l'année dernière, quand on faisait l'événement culturel pour la journée du patrimoine, on n'a jamais mis, comme on a fait cette année au sport de la Victoire, par exemple, avec avec un Manitou, par exemple, chaque fois, on est obligé de tout sécuriser. Au bout du monde de foot, chaque fois, même s'il y a eu une faible participation des commerçants. Donc, si vous voulez, chaque fois, on était obligé, pour la fête, on a été très sollicité.
Excusez-moi, j'ai cru mal entendre. Vous avez pas fait participer les commerçants, vous ne l'auriez pas pris, la taxe qu'on a votée. Vous dites faible participation des commerçants, de quel ordre?
Faible participation des commerçants en termes du nombre de commerçants qui ont participé à la décision. C'est ça que M. le maire était en train de
d'accord.
dire.
D'accord, j'ai eu peur qu'on ait fait passer le chapeau.
Après.
C'est la question, en fait, c'est par rapport au budget initial, on s'est retrouvé avec une série d'actes à mettre en place qui nous ont coûté plus cher que ce qu'on avait envisagé au...
Systématiquement, en amont, pour chaque manifestation, un protocole est mis en place avec la gendarmerie, la police municipale, avec l'élaboration d'un plan qui prend en compte l'impact de la manifestation sur la ville, et la façon dont on se doit de le sécuriser systématiquement. Donc, au regard de ces plans successifs pour chaque type de manifestation, il y a bien évidemment systématiquement des mises en place de flots, des dépôts de flots à toute heure du jour et de la nuit selon sur la durée et la temporalité de la manifestation, qui génèrent forcément des coûts supplémentaires. Des vigiles qui doivent être là pour entrer les arènes, pour pouvoir filtrer les arènes. On a tout un tas de choses qui se surajoutent.
Il y a toujours des vigiles.
Non, pas comme ça. Pas systématiquement.
Là, il y en a eu plus.
Là, il y en a
qui ont été portés par la municipalité.
Sur nos manifestations, maintenant, bien évidemment.
Oui, d'accord. Donc, c'est pas le sens de ma question très précise. J'ai entendu le maire de Béziers se plaindre d'une facture émise par la préfecture à 500 000 euros. C'est pas de ça dont on parle.
Non.
Pour la ferrière.
Pas du tout.
C'est nous qui, au regard de ce qu'on nous demande de faire, mettons une action en marche en termes de sécurité.
Alors, on n'a pas payé de facture à la préfecture. C'est la préfecture qui a émis des exigences telles que ça surenchérit le coût des charges fixes qui habituellement accompagnait la tenue des événements. Voilà.
Vous ne nous avez pas parlé des économies qu'on a faites en faisant pas circuler le petit canot à Carnon, le bac à Carnon.
Non, c'est parce qu'il
n'était pas. Elle n'était pas inscrite, ça vous a permis d'en parler, ça vous fait rire. Vous ne l'avez pas inscrite au budget.
Donc ça ne nous coûtait rien, on ne l'a pas fait quand même.
Non, si on l'avait réalisé, ça nous aurait coûté.
En dialectique, il serait fort si on ne faisait pas attention. On n'avait pas inscrit le point.
Non, il faut le remettre, ce bac. C'est une bêtise. Ne pas le faire. Tout le monde a râlé. Et...
Nous travaillons sur quelque chose de pérenne, vous l'avez bien compris.
Oui, mais d'ici là, il faut le remettre.
Mais bien entendu, on en a parlé avec les commerçants, on en a parlé avec certains acteurs économiques. C'est dommage aussi de déclencher des choses que pour les visiteurs et pas pour les gens qui sont sur place. Et l'idée, c'est même d'aller au-delà des deux mois. L'idée, c'est d'aller au-delà des deux mois, bien sûr. Bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Comme quoi, dans un temps, on peut se retrouver.
Je vais arriver, t'as un certain effort. Il vous reste 35 jours en Tokyo.
Bon, on va passer au vote, si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc nous passons au point suivant. Ce sont les créances éteintes et créances mises en valeur pour la commune. Voilà.
Donc le comptable public de la commune nous dresse l'état des produits recouvrables. Donc nous avons des créances éteintes à hauteur de 58 642,70 euros. Pour lesquels il n'est plus possible de récupérer l'argent, et les créances admises en non-valeur, 1805 euros, sur lesquelles il y a toujours des poursuites en cours. Donc on vous demande sur ce point de bien vouloir voter.
Pardon, excusez-moi, il n'y a aucune possibilité de récupérer ces créances. On doit savoir qui c'est quand même, les gens.
Ah, bien sûr.
Ça n'est pas les poursuites.
Des poursuites qui sont engagées.
Ça pas les poursuites. Les poursuites peuvent être reprises par le trésorier à tout moment s'il a connaissance de la nomination d'activité du débiteur.
Dans ces conditions, dans la mesure où on connaît la personne, on peut faire une action en justice.
Mais là, pour l'instant, le trésorier a fait tout ce qu'il fallait. Le trésorier du trésor public, enfin, maintenant des finances de la
Ouais.
A fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à la saisie, voire même la saisie immobilière, et ça n'a rien donné. Donc, lui, il se décharge de sa responsabilité, puisque sa responsabilité, c'est de recouvrer les dettes des clients. Et au cas où il aurait une information sur la resolvabilité, si on peut dire, du débiteur, à ce moment-là, il est autorisé à reprendre les poursuites. Mais pour l'instant, il est allé au bout du bout. Et le débiteur était insolvable.
D'accord. Voilà. Il n'est pas possible de savoir qui sont ces débiteurs. Est-ce qu'on peut avoir là? Est-ce qu'il y a une liste particulière?
Si, on
ne la diffuse pas.
Elle n'est pas jointe.
On ne la diffuse pas lors du conseil municipal.
Ah, d'accord. Je peux aller la chercher
éventuellement. Oui, bien sûr. La pièce est disponible.
D'accord, ok. Merci.
Bon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, le point suivant est directement lié, c'est-à-dire que suite à cette irrécouvrabilité, nous devons utiliser les provisions qui étaient faites à ces fins. Donc, je vous demande l'autorisation de bien vouloir admettre... la reprise des provisions pour ces créances douteuses. Donc à hauteur de 60 500 euros.
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie.
Et le point suivant est toujours lié, c'est-à-dire que vu qu'on a utilisé une partie des provisions, il faut les reconstituer. Donc, pour un montant de... Alors, le montant de la provision existante s'élève à 16 900 euros.
Donc le montant de la provision à constituer s'élève à 86 100 euros. Il convient donc de compléter à hauteur de 69 200 euros.
On se vote contre, abstention. Merci.
Juste une petite question.
Si vous voulez.
Toujours pas de micro. La Payotte qui n'avait pas payé, qui n'avait pas ouvert en 2017, l'a régularisé sa situation
sur 3 ans. Bien. Point numéro 8. Concours financier à l'épargne des aigrelles dans le cadre des indemnités de licenciement de l'ancienne directrice. La maison de retraite de Mogio est gérée par l'EHPAD des Aigrelles depuis sa création, qui est volonté commune de la collectivité et de l'association des anciens combattants, qui sont les générateurs de cette maison de retraite. Cette association a connu des difficultés avec son ancienne directrice, ce qui fait que, après diverses procédures, dont celle de l'inspection du travail, la directrice a été licenciée en 2012 après des rapports qui ont été faits par l'inspection du travail en 2009-2010. Elle a été relaxée dans un deuxième temps après avoir été condamnée par le prud'homme en première instance. Donc, cette condamnation a impliqué le versement d'une indemnité de 170 000 euros au cours de l'été 2018. Dans l'impossibilité de faire face à cette dépense exceptionnelle, l'association donc demande une aide à la commune pour le règlement de cette indemnité. Donc l'association peut prendre en charge 60 000 euros. Et ce que je propose, c'est que la commune apporte son soutien financier à l'EHPAD des Aigrelles à hauteur de 110 000 euros. Ce versement étant destiné à assurer le même niveau de fonctionnement à l'association et ainsi permettre la continuité de son activité au bénéfice des personnes âgées de la commune. Donc effectivement, je rappelle que en 2009-2010, donc on avait fait des démarches pour essayer d'avoir un fonctionnement correct au sein de l'association des Aigrelles. L'inspection du travail a ensuite rédigé 2 rapports par rapport à une notion de harcèlement vis-à-vis du personnel, 40 personnes. Et donc, Madame la directrice a été suspendue par décision de 2012. Donc voilà, il y a eu une première fois le tribunal des prud'hommes l'a débouté de son recours, pour qu'ensuite le deuxième jugement a fait droit à son recours, ce qui fait que nous avons été condamnés à lui payer les indemnités de licenciement avec un jugement assez particulier sur lequel je reviendrai si vous le souhaitez.
Oui, monsieur le maire, il n'y a pas eu un double emploi à un moment donné avec les 2 directrices. Il me semble que j'avais entendu parler de ça à Mogio. Mais c'était bruit de couloir.
La précédente, non, pas double emploi. Non.
Il y avait une deuxième directrice avait été nommée pendant la période où, alors, où la première était encore en activité.
Alors, non, il y a eu un licenciement. Il y a eu d'abord une suspension à titre conservatoire et ensuite il y a eu un licenciement. Ce n'est qu'après le licenciement qui a été prononcé que l'autre directrice a été recrutée. Il n'y a pas eu superposition. Si vous vous souvenez, c'est une affaire assez cruelle, assez difficile.
Hein. Oui, je m'en souviens.
D'ailleurs, autour de cette table, nous avions essayé de traiter avec l'humanité qui convient le fait que, bon, il y avait une personne qui avait fait, pendant certaines années, ça avait donné satisfaction, et puis il y a eu quand même 40 personnes qui ont porté plainte. Il y a eu, non sans avoir essayé avec l'adjointe qui en était la référente et avoir reçu cette dame, au moins à 2 reprises, pour essayer de recadrer les choses, on n'était pas arrivé à faire revenir un esprit, de respect mutuel et de fonctionnement qui affectait toutes les familles. Voilà. Et si vous voulez, les faits ont été reconnus. Néanmoins, sur la forme, la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnité pour reconstitution d'une carrière dont elle avait été suspendue, au motif que le recours de la commune était tardif par rapport au rapport de l'inspection du travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports en 2009-2010, on a un délai de 2 mois pour faire suite à un rapport du travail, l'inspection du travail, pour intenter une décision de suspension, de d'exclusion, de licenciement. Nous avions essayé de sursoir à cette décision. Et en 2011, en octobre 2011 et 2012, on a mis fin au travail de cette personne. Et de manière assez curieuse, la Cour a limité à 6 mois de dommages et intérêts la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est la condamnation minimale, alors que cette personne avait 28 ans d'ancienneté. Et de la même manière, la Cour n'a pas alloué d'indemnisation au titre de l'article 700 à cette personne. L'article 700, c'est la condamnation des frais d'avocat pour la partie qui a succombé, pour la partie qui a perdu. Donc c'est un jugement inédit. Voilà. Un jugement qui lui rend ses 2 années de salaire. Monsieur Capelletti.
Cours d'appel.
Oui.
Ouais. Et cours de cassation après.
Oui.
Donc on. Ça continue, non?
Non.
On arrête, ça a été un trou, là.
La personne qui a obtenu les indemnités n'a pas fait d'appel. La commune non plus. Nous avions en 2000, quand il y a eu le procès, le début du procès, la commune avait pris l'engagement de soutenir l'association dans la gestion de ses affaires et les affaires financièrement ne permettaient pas de provisionner une somme dans l'hypothèse qu'il y aurait des indemnités à verser. Donc nous avons tenu cet engagement de provisionner les sommes qui manquent au compte courant de l'association pour payer l'indemnité à la personne qui a été licenciée.
L'avocat qui a conseillé la mairie dans cette affaire n'aurait pas pu
c'est l'employeur, hein, c'est pas l'association. C'est via la commune. Enfin, non, c'est la commune. Il y a le CCAS et le CCAS a une association. Le CCAS est propriétaire des locaux et il y a une association qui s'appelle La Forme, ouais, qui est le gestionnaire.
D'accord.
Donc chaque fois, c'est un petit peu par ricochet. Ça n'est pas le maire qui est en prise directe, c'est l'association. C'est l'association qui a été condamnée. Et c'est l'association qui a licencié, ça n'est pas le maire.
Cette association
s'est
fait assister par un conseil.
Absolument, oui. Oui, et ce conseil n'a pas recommandé. Il y a eu, si vous voulez.
D'ailleurs, l'association, enfin moi, le conseil, ce serait le. Ok, bon, on s'est engagé à la soutenir, ok, d'accord, bon. L'association doit aussi, à un moment donné, se retourner contre son conseil, qu'il a mal conseillé en l'espèce.
Écoutez, la personne demandait 380 000 euros de dommages et intérêts, elle a eu 34 000 euros. C'est-à-dire que la condamnation pure et dure de la commune, de l'association, elle est le dixième de ce qu'elle aurait pu être. Et même, à un moment donné, il y a eu une démarche de transaction. Quand je dis transaction, c'est un petit peu comme quand vous initiez une rupture conventionnelle de contrat. C'est-à-dire que les deux parties auraient pu s'entendre sur une somme proposée par l'association supérieure à 170 000 euros. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans chacun autour de cette table, plus ou moins au courant de ces moments difficiles qui ont touché beaucoup de familles et qui ne plaidaient pas pour, si vous voulez, le respect des responsabilités qu'une personne a. Les personnes âgées ou pas les personnes âgées, voilà. C'est pas de gaieté de cœur, parce que nous avons été obligés de gérer tout ça. Et j'ai le souvenir, puisque M. Pradel parlait tout à l'heure, de consensus que dans l'Assemblée précédente, dans le mandat précédent, il y avait une approche consensuelle des dispositions qui avaient été prises, où on avait essayé d'être le plus humain possible et le plus respectueux du sort des pensionnaires. Et également du statut de cette personne qui, à un moment donné,
a failli à sa mission. Voilà, je pèse mes mots. Ça, voilà. Voilà, donc, alors, je peux vous dire qu'effectivement, il y a des propos qui ont été cités, des attitudes qui ont fait que les prud'hommes l'avaient dégoûté de ses prétentions, en sachant que ça a mis la commune dans une... pas la commune, l'association dans une position difficile, parce que vous avez une personne qui était depuis 1985, et que remplacer une personne qui avait quand même un savoir-faire, qui a fait son temps, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de voter cette proposition qui consiste à solder cette affaire, puisque l'association, elle, ne dispose pas de fonds supérieurs à 60 000 euros par rapport aux 170 000 qu'elle doit. Oui, les membres du conseil d'administration ne prennent pas part au vote. Hein. C'est-à-dire, levez le doigt, les membres du conseil d'administration.
Du conseil d'administration
de l'EHPAD. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Écoutez, voilà. S'il n'y a pas de question particulière, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie du fond du cœur pour cet accord. Le point suivant, le point numéro 9. Alors, c'est toujours moi, alors, c'est-à-dire, c'est le dépassement. M. Claverie nous a représenté du 22 au 24 septembre à Beauvais, où se sont déroulées les cérémonies et commémorations des événements tragiques de 1943. Voilà, donc M. Claverie est allé avec son véhicule à Beauvais et a été hébergé deux jours. Voilà, du 22 au 24 septembre. Voilà, je vous demande d'autoriser le remboursement des frais. C'est une nuit d'hôtel et les frais d'autoroute.
Il n'y a que les frais de route.
Il n'y a que les frais de route puisque tu es pris en charge. Voilà. Donc, qui contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le congrès des maires qui se tiendra du 22 au 23 novembre, du 20 au 22 novembre. Donc, je sollicite également l'autorisation du conseil pour que Mme Sanchez-Bresson, Mme Crampagne, Mme Favier, Mme Moulin-Trafaud, Mme Aiglet, M. Balzamo et moi-même puissent assister au congrès des maires du mardi au jeudi 20 au 22 novembre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la réhabilitation du lieu Prévert, Mme Favier, Caroline. ACPC, APCP, autorisation de programme de crédit et paiement. Je me suis trompé ? Le 10 ? Ah, je l'ai trop vite. Non, c'est le bon. C'est le bon. Pardon. Mise en place une coordination pour un groupement de commandes. Ah oui, pour la passation et l'exécution d'un marché relative à la conception, la création, la rédaction des outils de communication institutionnelle. En fait, c'est permettre à l'office de tourisme de Carnon et à la mairie d'avoir le même prestataire et de lancer le marché sous la forme d'un groupement de commandes. Ça évite une double procédure et ça nous paraît plus intelligent, entre guillemets, plus utile de le grouper. Voilà. Si vous êtes d'accord, par cette délibération, contre, abstention, je vous remercie. Voilà, le point numéro 11.
Le numéro 11, donc c'est... alors là, ce sont que des opérations comptables, c'est-à-dire qu'on décale des montants. Alors, pour l'îlot Prévert, il était déjà inscrit en APCP, c'est-à-dire autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, il suffit de déplacer 2 millions d'euros qui étaient prévus sur 2018 et qui seront réalisés sur 2019. Donc, j'ai besoin de votre vote pour pouvoir faire ça. On va tous les voter les uns après les autres.
Monsieur Pardé.
Si vous voulez, vous avez essayé de ne pas faire de budget supplémentaire cette année en disant que ça serait mieux. En termes de visibilité, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Là, moi, je suis très gêné sur les crédits de paiement. Vous me demandez une délibération avec des crédits de paiement pour 2019. Alors qu'on n'a pas établi notre budget 2019, le fait de... C'est des crédits de paiement, non, c'est de l'argent disponible.
Oui.
Et moi, le fait qu'on n'ait pas fait le compte administratif et qu'on n'ait pas fait notre budget primitif pour 2019, le fait de le voter sous cette forme-là, de faire cette écriture-là, je trouve que c'est assez... moi, je n'avais jamais vu une rédaction comme ça. Je la trouve très troublante. Sur le principe de l'annualité, vous savez, il y a un budget, il y a un principe budgétaire, c'est l'annualité. Du moins, on n'a pas établi le budget...
Ça rentrait, j'entends ce que vous dites et je laisserai à Caroline Favier le soin de répondre techniquement. Sur le principe, on a une enveloppe, on a un projet qui coûte 3,3 millions. Ce projet, on est obligé de créditer les sommes pour pouvoir l'engager. Si ce n'est que pour des raisons techniques, un coup c'est parce qu'il y a l'architecte qui a pris un peu de retard et d'autres fois c'est une chose énorme, on n'a pas dépensé la somme que nous avions inscrite. Ce qui est assez classique pour des gros projets. Un gros projet qu'on veut prévoir, il faut le voir sur 2 ou 3 heures, on ne peut pas le voir que sur 1 heure. Donc là, si vous voulez, on ne rajoute pas, on n'agit pas sur la sincérité de la prévision budgétaire. Simplement, ce dont on acte, ce qu'on vous demande d'acter, c'est que cette année, on sait qu'on ne va pas payer plus que tant d'ici le mois de décembre. À quoi cela sert-il de continuer à se trimballer les 3 millions alors qu'on sait qu'on va en donner que. Comme on donnait que, vous voyez, on sait qu'en 2019, que ça doit se solder au mois de juin 2019, on sait qu'on va payer le solde. C'est une lisibilité qui dit que cette année, on aura consommé le tiers de l'entièreté du projet. C'est pas, il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de chapeau ni de rien. Au contraire.
Si vous voulez, il y a la question du principe. Le fait de faire des crédits de paiement, c'est sonnant et trébuchant. Donc le fait qu'on n'ait pas voté notre budget et qu'on déclenche des crédits, qu'on écrive, qu'on affecte des crédits de paiement, vous verrez, il y a plus grave.
Hein. C'est le budget 2018.
Oui, mais tant qu'on n'a pas fait le compte administratif pour faire le balai, pour savoir si tout était équilibré, tant que vous n'avez pas. Le redéploiement de 2018, vous n'avez pas le droit de le faire comme ça. Et puis quand bien même, si vous aviez besoin de liquidité, si vous voulez, sur janvier, février, mars, parce qu'on votera en mars notre budget, vous avez quand même la capacité d'engager ces 80%, je crois, du budget. Donc il n'y a pas de péril sur les factures. Cette écriture-là, elle n'augmente pas la lisibilité de nos politiques publiques. Et je ne sais pas...
Je pense que si, parce que sinon, on aurait dû inscrire au budget les 3 millions. Sans savoir après ce qu'il en était fait là. Au contraire, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire qu'on a utilisé 1 285 000 sur le projet de Prévert et que vu que la fin des travaux est décalée sur 2019, il y a 2 millions qui seront engagés sur 2019. Je trouve qu'au contraire, ce n'est pas par un besoin de trésorerie, c'est le choix sur des gros projets comme ça de ne pas engager de l'argent qui on le sait, ce sera pas. Là, on ne savait pas, sinon, évidemment, ça n'aurait pas été mis.
En termes de pédagogie, vous avez le DP, vous pouvez avoir un BS ou pas, décider de ne pas en faire.
Oui.
Et après, vous avez le compte administratif. C'est des moments où on voit ce qui a été fait, on voit comment on avance. Là, c'est par petits morceaux. Ça ne donne pas de visibilité.
Là, je vous parle en projet, au contraire.
Oui, vous verrez. Non, mais vous avez raison que le moment de vérité, entre guillemets, c'est effectivement un an après pour savoir le compte administratif et le compte de gestion ce qu'ils disent. Là, simplement, on ne fait pas une nouvelle inscription. On fait simplement une inscription, on modifie l'inscription calendaire. Et la décision modificative, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, oui ou non. Sinon, on n'invente rien, là.
Le montant, il était déjà voté.
Oui, mais le fait de décaler, enfin, c'est le principe. Là, il me semble que vous creusez dans le principe d'annualité du budget. Je vous ai dit ça, mais vous verrez qu'après, si vous voulez, là où je suis gêné, c'est quand vous allez avoir la même, où vous anticipez le fait qu'il y ait une subvention du conseil départemental en 2019. Ça, rangé. Il y a une écriture qui est posée comme ça. Là, je me suis dit, ils ont des tuyaux, ils savaient déjà ce que le département va faire.
Non. On inscrit ce qui est notifié.
Attendez. Ça sera la question suivante.
Bon, sur celle, on les prend encore une.
PGS, c'est mort derrière la même blague.
On les prend.
C'est vrai. Non, je suis très gêné.
Elle est déjà notifiée.
Bien sûr.
Mais si elle est déjà notifiée, elle est
inventoriée. C'est par souci de au contraire
d'être. Il a fait le
visage. Il vous a notifié
le 2019. C'est parce qu'on l'a déjà.
la subvention, on l'a déjà, puisque le montant était prévu sur 2018. Donc, vu qu'on reporte la dépense sur 2019, on reporte aussi la subvention sur 2019.
Oui. Là, si vous regardez, monsieur Pradet, si vous regardez sur de 2015 à 2019, 1, 2, 3, 4, 5, on a dépensé les cônes de cerises en 2015, la même chose en 2016, un peu plus en 2017, 1 million en 2018, et on va crescendo, mais l'inscription est faite depuis le départ. On n'a rien fait d'autre. Hein.
Vous avez la notification du conseil départemental depuis quand?
On l'a reçue il y a 2 mois.
Oui, il y a 2 mois. Et elle est, vous êtes sûr, par exemple,
qu'elle n'est pas formée dans le temps.
Vous apercevrez que ça sera fini. Les achèvements sont 10%, c'est comme ça. C'est ça. Voilà.
Bien sûr que nos services ont vérifié cette possibilité-là. Je ne tourne même pas vers Madame Banque, tellement je suis sûre qu'elle a vérifié ça.
Bon, je trouve que cette écriture-là n'est pas orthodoxe.
Je trouve que cette écriture-là est...
Je comprends ce que vous voulez faire, mais le fait d'aller contre l'annualité...
Vous voyez exactement la réalisation de chaque projet grâce à cette écriture-là.
Mais ça, pour avoir ça, j'ai le plan pluriannuel d'investissement. C'est là que je vois. Et si vous m'aviez édité un PPI modifié sur un document non budgétaire, j'aurais compris. Et là, c'est une décision, vous prenez une décision très différente qu'on n'a pas encore passé au BP. Je trouve ça.
C'est
partant.
C'est des crises déjà.
Je vois que Mme Banque ne partage pas mon inquiétude. Si Mme Banque n'a pas peur, ça va. On peut continuer.
Bon.
Mais c'est...
Non, mais là, c'est le principe. En plus, pour le coup, celui-ci, l'îlot Prévert, était établi dès le début en APCP. Donc. Là, on a juste décalé le montant. Il a toujours ce projet-là a toujours été inscrit en APCP, non?
Oui. Mais l'AP.
Moi, je trouve qu'au contraire, voyez, vous qui êtes toujours soucieux des matelas non utilisés, au contraire, là, on a une transparence par projet qui est, on sait exactement ce qu'il en est sur l'état d'avancement.
Vous n'avez fait qu'augmenter la peur. Vous avez des matelas d'un côté et des pronostics de l'autre.
Mais non.
Ça...
Vous avez le détail exact de la réalisation pour chaque
Je vous dis, ça heurte le principe d'annualité budgétaire, cette écriture-là. Alors, il y a peut-être une autre écriture qu'on peut envisager, mais délibérée comme ça. Et puis, vous ne perdez pas en efficacité en faisant un PMU, ça permet d'avoir, de savoir où
on est. Bon. On a compris que vous étiez pour le principe du VS. On a fait ce choix.
Vous avez fait ce choix qui vous a permis actuellement d'afficher 25 millions d'euros en BP, en investissement. Ça a été votre effet d'annonce.
Non, mais...
Je ne pense pas que le jour où on a annoncé ça, on a fait ça. Vous avez fait la politique,
non? Pas souvent. Non.
Vous avez vu qu'on réalisait quand même pas mal de choses sur le... Ah, vous me rassurez, bon. C'était pas que du vent.
Bon. Non. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voici. Point suivant, toujours Caroline.
Alors, la rue Jean Moulin, donc nous passons ce projet-là en APCP, il n'était pas au départ, toujours pareil, l'objectif c'est d'avoir plus de transparence sur la réalisation du projet et l'utilisation des fonds qui sont déjà attribués. Donc sur 2018, on a réalisé 250 000 euros et sur 2019, 1 090 000, donc je vous demande de bien vouloir. Basculé sur 2019.
Autre question, ça ne fait pas apparaître le deuxième élément, ça ne fait pas apparaître le fait que vous retranchez en 2018 cette somme, qu'on décide de la retrancher de 2018. Voilà, parce qu'en 2019,
c'est exactement le détail que je vous ai donné de mon DM sur le premier point de ma première délibération. Je vous ai dit qu'on décalait 5 075 000 euros de travaux sur 2019 et après. Et là, je rentre dans le détail. C'est exactement ce que je vous ai dit sur la délibération. Donc, il faut voter point par point. Mais donc, le point
des points. Alors, contre, abstention. Merci.
Le point C, c'est exactement la même chose pour la rue du Saut du Loup. Donc en 2018, ont été utilisés 20 000 euros et sont reportés sur 2019 250 000 euros. Même le processus, on le passe en APCP pour plus de justice.
Contre. Abstention. Merci. La Fonte de Moguio, Foncé Nord.
La Fonte de Moguio, Foncé Nord, on passe en APCP, le marché est déjà attribué, donc j'ai 250 000 euros utilisés en 2018 et je vous demande de bien vouloir basculer les 650 000 sur 2019.
Contre, attention, merci. Rue François Villon.
On passe en APCP, donc... En 2018, ont été utilisés 20 000 euros et on vous demande de bien vouloir passer en 2019 450 000 euros.
Contre. Abstention. Merci. Programme voirie 2018.
Donc pour terminer, c'est le dernier projet qu'on passe en APCP et sur 2018, on a utilisé 28 000 euros et je vous demande de bien vouloir passer 410 000 euros sur 2019.
Contre. Attention, merci.
Le point suivant, normalement c'est encore moi. Oui. Ouais. Donc c'est tout simplement une demande de garantie d'emprunt pour la société Promologie qui nous sollicite, commune de Moguio, pour accorder une garantie à hauteur de 75% pour financer l'acquisition en VFA de 6 logements. Au niveau de la résidence, le Palmaïso, situé rue des Quatre Fondateurs à Carnot.
Mais comment se fait-il qu'ils demandent que ce soit la commune qui soit garant?
Ah, toujours. Toujours. C'est la commune qui...
C'est logement social.
Cette entreprise est spécialisée dans le rachat des appartements sociaux, dans la gestion des appartements sociaux, comment on dit?
Oui, c'est un bailleur social.
On travaille depuis plusieurs années à Promologie, d'ailleurs.
Bon. Donc vous avez le détail, il y a 7 lignes de prêt.
C'est un ensemble de combien?
Le montant
6 logements. 3 PLUS.
Les 6 logements sociaux sur combien?
C'est 30%,
la forme de 40.
Le point 12.
Pardon, juste une petite question par rapport à ces logements. Ces logements sont dans des appartements qui ont été construits.
En fait, c'est en VFA, c'est-à-dire que c'est en vente future d'achèvement.
C'est pardon, madame, je t'entends.
En vente future d'achèvement, c'est-à-dire que ça va être construit.
Ah, d'accord. Mais il se situe où, apparemment, ce marché? Rue des Quatre Fondateurs? C'est derrière ce qui a été construit par...
Derrière la Marina.
D'accord. Non, mais je voulais savoir par là si ce qui avait été construit, c'était uniquement des appartements sociaux ou est-ce que, dans ce contexte-là, il y aura une mixité appartements sociaux et accession à la propriété. Et là, je me pose un peu la question de savoir... Si les gens qui vont faire l'accession à la propriété auront les mêmes obligations que les gens qui seront sur les appartements.
C'est une opération privée. En fait, c'est une opération privée. Sur les opérations privées, à partir de 8, c'est ça, Bernard ?
De 6.
Ah, à partir de 6, tu as une application. À partir de 6, il y a une application du pourcentage de logements sociaux. Voilà, mais c'est une opération privée.
Oui, non, mais j'entends bien, mais moi je me pose la question de savoir comment on peut gérer dans le même immeuble des appartements sociaux et de l'accession à la propriété.
C'est habituel. Alors, le Promologie est un bailleur et constructeur, il est habitué, donc il fait ça. Ils sont habitués. Et au contraire, ça fonctionne très très bien.
Longtemps.
Ça fonctionne très très bien.
Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Alors ensuite, c'est une décision modificative pour le budget annexe du port de Carnot. Donc c'est ce qu'on a fait aussi pour Moguio, c'est-à-dire au niveau de l'admission des créances et éteintes à hauteur de 14 520 euros. Donc c'est suite à la communication, bien sûr, du trésorier. Et donc, on doit voter d'abord le montant des créances, donc 14 520 euros, et après, on a la suite, pareil, on utilise les provisions, on reconstitue les provisions. Donc, il faut d'abord voter par rapport au montant des créances douteuses, s'il vous plaît.
Monsieur Capelletti, en fait, comme on parle de Carnon, c'est un point qui n'est pas à l'ordre du jour, mais je voudrais revenir sur un point qui concerne Carnon. On avait parlé lors du dernier conseil municipal, je bondis sur le fait qu'il y a un point sur Carnon. Voilà. On avait parlé du déplacement du Luna Park. Et j'ai relu la convention et il me semble que si on veut pouvoir le faire ou pas, enfin en tout cas si on veut se donner de la possibilité, il faut envoyer avant le 30 décembre une lettre d'intention. C'est ça. Donc j'aimerais savoir qu'on avait dit qu'on suivrait ce dossier régulièrement.
Le point sera inscrit. Ce qu'on a dit, c'est que dans le cadre... Je propose quand même qu'on vote le point.
Excusez-moi d'avoir...
Oui, parce que on vote le point, si vous êtes d'accord. Parce que ça arrive... Alors, on vote le point d'abord, et je vous réponds. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention. Alors, simplement, le schéma directeur qui est en cours de route avec la consultation qui va se tenir dans le mois prochain, début novembre, sur un deuxième atelier participatif, va nous permettre d'aller un peu plus loin dans les explorations relatives à tout ce qui est stationnement et circulation. Il est entendu que le lieu sur lequel s'opère le Luna Park peut éventuellement être un endroit concerné par une réduction, une suppression ou un maintien. Voilà, donc il appartiendra au cabinet qui s'occupe de la coordination de voir quelles sont les conditions en termes d'exécution de travaux, si tant est que des travaux affectaient un jour cet espace. À quel moment nous renoncerons à la convention de renouvellement. Vous pouvez observer que nous l'avons faite un an renouvelable, c'est-à-dire que l'idée, c'est de voir si en 2019, nous serons en mesure d'y faire des travaux ou pas de travaux, si toutefois cette zone est une zone repérée comme étant nécessaire à un réaménagement urbain de Carnon. Voilà. Donc, en revenant sur ce sujet, je ne l'évacue pas, mais on y reviendra. Point 14.
Alors, le point 14, ce sont les créances éteintes de 2018. En fait, ça a été séparé. Donc, les précédentes, c'était avant. Donc, 2018, là, nous sommes à hauteur de créances éteintes 14 519,60.
Contre, abstention, je vous remercie. Bernard, point 15.
Alors le point 15, bon, c'est un point qui est redondant avec déjà ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'avenant numéro 3 pour la Jacques Lafont et dans le crack. On remet une petite couche. La commune étant encore propriétaire de parcelles de terrain nu situées dans le périmètre de la ZAC de l'opération de Lafont de Moguio, il convient donc de les céder à la SPL comme le prévoit l'article 2 de la concession d'aménagement. Cette cession se fera au prix de 23 euros le mètre carré, conformément à l'avis des domaines et aux différents jugements prononcés par le juge de l'expo.
Je me permets. Dans la mesure où les terrains cadastrés CH n'étaient pas dans le projet initial, donc ces terrains ne sont pas soumis au même prix d'achat ou de vente que les terrains initialement prévus de la Fond de Montbiot. Vous êtes d'accord avec moi, non?
Non, ils avaient été achetés le même prix. Et...
Non.
Si.
Non, monsieur Cassard, puisqu'ils n'étaient pas dans le projet initial de la Fond de Montbiot. Là, vous nous demandez vous demandez à ce qu'on vote pour que la SPL rachète ces terrains, donc en cadastré CH4, CH5 et CH50, qui sont, eux, sur la pointe de Mirejo.
CH4 et
CH5. Oui, CH4 et CH5. Ah si, moi j'ai ça.
Non, c'est un CE50.
C'est un CE50, bon, oui. Autant pour moi. Mais donc ces terrains-là, dans la mesure où ils ne faisaient pas partie du projet initial, ils n'ont peut-être pas le même coût de rachat ou de vente que les autres terrains.
Si, parce qu'ils ont été intégrés dans le périmètre de la ZAC suite à la modification que nous a imposée l'État.
Mais la modification, d'accord, je suis d'accord avec vous, l'État vous a imposé une modification de qui vous a occulté de 11 hectares, je crois, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Mais les terrains que vous rattachez maintenant, qui font partie de la pointe de Mugdezot, ces terrains-là n'ont pas été soumis au même jugement de ceux de la Fonde Mogio, puisqu'ils n'étaient pas impliqués dans la Fonde Mogio.
Quand on parle de jugement de la Fonde Mogio, ce n'est pas seulement la Fonde Mogio. Les terrains, l'estimation des domaines, ce sont les terrains urbanisés.
Oui,
les terrains urbanisés sont estimés par les domaines à 23 euros.
Ils sont estimés, ils sont estimés par les domaines à 23 euros sur la Fonde de Mogio, pas sur la pointe de Mulhouse. Je suis désolé, c'est pas au même endroit.
Non, parce que les PLU sont classés dans le même zonage.
Mais le PLU, ben, il n'a pas été mis au goût du jour, je crois.
Mais monsieur, dans le PLU actuel,
oui.
Ces terrains sont situés dans le même zonage que la Fonde Mogio.
Mais depuis quand ils ont été situés dans le même
zonage?
Ah non, pas 2006, ils sont jamais de la vie. Jamais, ils ne pouvaient pas, monsieur Cassard, puisqu'ils n'appartiennent pas à la SPLA. Ils appartiennent à la mairie.
Je pense que vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je m'exprime peut-être mal. Je ne parle pas de qui sont depuis 2006 dans la ZAC. Je vous dis que depuis 2006, ils sont dans le zonage du PLU. Et vous savez que le PLU a des zonages.
Oui, je connais, oui.
Donc, ces terrains-là sont compris dans le même zonage que les terrains de la Fonde Mogio. Donc, le prix des domaines s'applique au zonage et pas seulement à la ZAC elle-même.
Voilà. Ah, je pensais que par rapport à leur situation, ces terrains pouvaient valoir plus cher dans la mesure où ils sont aujourd'hui travaillés par la CUMA, par exemple.
Ce sont des terrains urbanisés qui sont... Je vous dis, l'estimation des domaines, elle est là, elle est à 23. Je crois qu'elle est jointe d'ailleurs, non?
Oui, on
l'a vu. Voilà. Donc, on ne peut pas différencier, si vous voulez.
Oui, bon, écoutez, si vous le dites, je vous crois, mais je trouve ça un peu bizarre par rapport au fait que ces terrains, même s'ils ont été zonés à l'époque, ont peut-être aujourd'hui une autre valeur marchande que les terrains de la Fonde Mogio.
Moi, je ne peux pas déroger à la règle.
Oui, j'entends bien, mais rien n'empêche de faire les propositions.
On a entamé une négociation ou au plus intérêt général.
On ne peut pas aller contre l'avis des domaines.
On ne peut pas aller contre l'avis des domaines. Donc, dans un même zonage, le prix est évalué au même prix au mètre carré. Il peut éventuellement y avoir des indemnités compensatrices, de l'emploi, des choses comme ça.
Non.
Mais à condition que le terrain soit travaillé, qu'il y a toutes sortes de conditions, et là, ce n'est pas le cas.
Ah si, sur les terrains qui sont travaillés par la CUMA, ils sont travaillés. Ça fait 40 ans que j'habite à Mogio, ça fait 40 ans qu'ils sont travaillés, les terrains. Ne dites pas ça. Bon.
Écoutez, M. Cassard vous a répondu, même zonage, acheté même prix. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Bernard, point 16.
Ouais. Alors, le point 16, il s'agit de la modification simplifiée du PLU et du bilan de la mise à disposition au public et approbation. Par arrêté 132 du 14 avril 2018, Monsieur le maire a engagé une modification simplifiée du PLU applicable au secteur UF, AUF et 1 AUE2. Cette modification concerne des points de règlement. Ces points sont principalement l'aspect extérieur des constructions, les normes de stationnement, l'occupation et l'utilisation des sols en ce qui concerne le secteur 1 AUE2. Une enquête publique s'est déroulée entre le 27 août et le 28 septembre. Elle n'a donné lieu à aucune observation sur le registre ni sur Internet. Les personnes publiques associées, deux, ont répondu favorablement. Donc, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter cette modification simplifiée.
Questions, on passe au vote. Contre, abstention. Merci. Toujours Bernard, le 17.
Alors, avis des personnes publiques associées, c'est-à-dire que nous faisons partie des personnes publiques associées et on doit donner un avis sur la révision du SCOT du Pays de l'Or. Alors, le SCOT du Pays de l'Or a été arrêté le 11... La révision, pardon. Hein, le SCOT révisé a été arrêté le 11 juillet 2018, transmis à la commune le 17 juillet pour donner un avis sur ce SCOT. Je vais essayer de vous... de vous résumer le SCOT en quelques mots, ça ne va pas être évident, mais enfin bon, c'est un exercice auquel je me plie. Tout d'abord, il faut savoir que l'agglomération du Pays de l'Or a souhaité profiter de cette révision pour faire de la protection de l'environnement et des espaces agricoles le point clé de ce SCOT. Elle a pris en compte un certain nombre d'observations des personnes publiques associées, celles des services de l'État, de la DDTM en particulier, et cela s'est traduit par, premièrement, la baisse du taux annuel de croissance démographique, qui est passé de 1,13% à 0,6%, ce qui se rapproche des dernières projections de l'INSEE. Deuxièmement, la maîtrise de l'objectif de consommation foncière à vocation résidentielle. Elle est passée de 40 à 45 hectares, c'est-à-dire à 3 hectares par an, contre 12 hectares auparavant. C'est donc une réduction de plus de 75% de la consommation d'espace par rapport aux surfaces consommées entre 2009 et 2018. La maîtrise de l'objectif de consommation foncière en ce qui concerne la vocation économique, elle est passée à 59 hectares, c'est-à-dire à 4 hectares par an, contre 6,5 hectares auparavant. C'est donc une réduction de 39% de la consommation d'espace par rapport aux surfaces consommées entre 2009 et 2018. Le quatrième point, c'est la prise en compte du renouvellement urbain. Le SCOT privilégie l'urbanisation au sein des tissus urbains et villageois déjà constitués, et notamment en proximité des équipements, des services, des commerces et dans les secteurs desservis par un réseau de transport existant ou à venir, puisqu'il y a des réseaux qui sont prévus. C'était donc 60% du potentiel global des logements, c'est-à-dire 2400 logements sur 3900 logements, qui sera réalisé sous forme de réinvestissement ou renouvellement urbain. La prise en compte de la notion de point mort démographique. Le point mort démographique, vous savez ce que c'est le desserrement des ménages, c'est la prise en compte du desserrement des ménages, ce qu'on appelle le desserrement des ménages, c'est l'explosion des divorces, enfin, vous voyez, hein. Donc il demande la production de logements, mais qui n'engendre pas un accroissement de la population. Mais il est nécessaire de faire des logements pour reloger le conjoint séparé, etc. Et enfin, dernièrement, l'élargissement des coupures d'urbanisation à l'ensemble des zones non urbanisées présentant un caractère naturel et agricole. Voilà, j'ai essayé de vous faire une synthèse rapide de ce SCOT. Maintenant, je vous demande votre avis. Voilà.
C'est le problème de la fabrique.
Pardon ?
C'est le problème de la fabrique, ce SCOT.
Pourquoi tu dis ça ?
C'est parce qu'ils disent qu'il faut faire pour réurbaniser sur les villages. Il ne faut pas faire, il faut respecter les coupures urbaines. C'est le top.
Sauf que les projets en cours, ils n'en font pas partie.
Oui, c'est la deuxième. Vous avez pas peur qu'on soit un peu décalé avec la fond de Montgueux?
Est-ce que...
La fond de Montgueux est comprise dans le SCOT.
Je vous rappelle, M. Prenet, il connaît sur un PLU qui est appelé France de 1995. Il ne va pas dire.
M. Montgueux.
Non, je voulais juste poser une question parce que je sais que la Chambre d'agriculture est beaucoup intervenue sur les SCOT et je crois qu'ils ont donné des appréciations sur celui-là, notamment par rapport à l'extension de l'écoparc de Saint-Onès. Je voulais savoir si vous avez des nouvelles à ce sujet.
Non, on n'a pas eu là encore l'avis de la Chambre d'agriculture. On a eu l'avis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la CDPENAF, c'est-à-dire la Commission départementale de protection de l'environnement, de la nature, de l'agriculture et de la forêt. La CDPENAF a donné un avis très favorable. Elle nous a d'ailleurs félicité. Elle a d'ailleurs félicité le Pays de l'Or pour son SCOT. Le préfet nous a également mis en avant lors d'une réunion sur tous les SCOT de l'Hérault, où il a cité le SCOT du Pays de l'Or en exemple. Voilà. Alors la Chambre d'agriculture, il faut savoir qu'elle faisait partie de la CDPENAF. C'est moi qui ai présenté donc le SCOT à la CDPENAF et la Chambre d'agriculture n'a pas dit un mot. Donc on n'a pas de nouvelles pour l'instant.
D'accord.
Voilà.
Juste un mot de plus. Il y a une circulaire ministérielle qui date de 2015, je crois, qui a été répertoriée par le préfet en 2017 sur la conservation et la préservation des zones cultivables. Je ne sais pas si vous, êtes, si vous connaissez cette...
Si, c'est un document comme ça...
Oui, je sais, je l'ai reçu, je l'ai regardé aussi. Et donc, je me disais qu'il faudrait peut-être aussi y réfléchir à Mouillot sur certains projets.
C'est pris en compte dans le scope de la préservation hein, des oui. territoires agricoles. C'est même le principal objectif de ce scope. Hein.
Mais je suis d'accord avec vous, mais dans la mesure où je ne suis pas dans l'idée de la fonte de Mouillot telle qu'elle est présentée, je me dis qu'il y a des terrains agricoles à Mouillot qu'on aurait pu préserver, notamment ces fameux terrains, c'est H4, c'est H5. On aurait pu préserver.
D'accord. Mais il y en a certains qui vont être rendus là.
Bien, c'est pas des... J'ai vu que nos voisins de la métropole de Montpellier avaient voté favorablement.
Absolument.
Donc, entre ce Sorel et ce Rossignol, il y en a au moins un des deux qui est mal. Qui sont tombés d'accord. Donc, on progresse.
Si on va dans le bon sens. Je vous laisse la conclusion.
Bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point 18, toujours Bernard, c'est comme ça.
Alors, le point 18, c'est, c'est la convention d'occupation du domaine public relative au maintien d'une station de relais avec Bouygues Télécom, on a dit entre parenthèses prolongation. Alors, dans le cadre du renouvellement du bail liant la société Bouygues Communication à la commune, et qui concerne la station de relais et les antennes qui sont implantées depuis 1998 sur le clocher de notre église, cette société propose la modernisation de cet ensemble pour pouvoir accueillir la 4G. Ne me demandez pas plus. Hein. Et également la mutualisation avec la société SFR, c'est-à-dire que SFR se joindrait à Bouygues sur le même endroit. Donc, une déclaration préalable a été déposée le 26 juillet 2018 par ces sociétés. Elle a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, assorti de prescriptions visant à protéger les monuments historiques et les centres anciens. Pour la petite histoire, l'ABF a écrit dans son avis qu'il ne souhaitait pas que les antennes radio ou téléphone se substitue au paratonnerre qui existait sur les clochers. C'est ce qu'il a écrit. Donc, cet avis, il l'a assorti de prescriptions visant à protéger les monuments historiques, parce que, bien sûr, on ne va pas empêcher l'implantation des relais téléphoniques, puisque ça va nuire à la population qui a besoin du téléphone. Donc, il a donné des prescriptions. Comme j'en ai une en tête que j'ai lue, il souhaite que les antennes soient par exemple camouflées contre la partie du clocher et en les peignant de la même couleur. Si c'est de la brique, on les peint rouge. Ben, vous voyez, il a tout un tas de prescriptions comme ça. Donc, nous on ne peut pas les contre. On tient bien sûr compte de l'avis des ABF. On a discuté avec les ABF et on est arrivé à un accord en se disant que La convention prend fin en novembre, le 14 novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Dans ce délai-là, on n'aura pas le temps, avec les ABF et les sociétés Bouygues et SFR, d'arriver à une solution. Il va falloir plusieurs mois de projets, de contre-projets, de ceci et cela. Donc, il vous est proposé pour l'instant, pour pouvoir continuer à ce que les gens aient le téléphone, de renouveler le bail pour un an, de faire un avenant au bail pour un an, ce qui nous permettra, pendant ce laps de temps, de s'accorder avec les ABF et d'arriver à faire un projet valable et accepté par tout le monde. Donc c'est un avenant au bail qui vous est proposé. Voilà.
Merci de me rendre la tête.
À vous, Cognac G.
Voilà, donc tel que exposé, je vous demande de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Juste une petite question. C'est le même type d'antenne qu'il y a au Garrigue ?
Oui, ce sont des antennes pour les radiotéléphones. Mais ce sont des petites antennes. Vous les avez déjà vues sur l'église.
Oui, oui, oui.
Donc ils vont refaire des antennes plus modernes, mais qui ne seront pas plus importantes au niveau...
Non, ce n'est pas une question d'importance, c'est une question de retomber sur la population.
Donc ces antennes-là existent depuis 1998, hein, donc la population a déjà... bon, elles sont, comme je vous l'ai dit...
Bon.
Non, comme je vous l'ai déjà dit... Non, mais trêve de plaisanterie. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais...
Salut.
Je vous remercie de mettre un petit peu de gaieté dans ce conseil. Où il est tard, on a besoin de sommeil, mais c'est bien. Non, comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Frappoli, ces antennes, elles sont soumises à des contrôles.
Oui.
Donc, tant qu'elles sont dans les normes européennes, nous ne pouvons pas interdire l'implantation d'antennes.
Bon.
Elles sont donc dans les normes européennes. En cas de... Et ce voilà. qui va se passer, comme je vous l'ai déjà dit, après j'arrête, quand les antennes vont être changées, il va y avoir un contrôle qui va être effectué sur les anciennes sur les antennes actuelles.
Oui.
Les nouvelles antennes vont être implantées, le contrôle va se faire sur les nouvelles antennes implantées. Si elles ne sont pas dans les normes, elles seront obligatoirement démontées et remplacées par celles qui seront dans les normes. C'est le seul contrôle qu'on puisse faire et qui nous tient. Voilà. Après, je ne peux pas, moi, interdire et je ne peux pas priver la population de téléphone non plus.
Bien. Allez, tu as dit que tu as arrêté. Voilà. Arrête la discussion. C'était contre ou abstention? Abstention. Très bien. Allez, toujours toi, Bernard. 19. Les roselières.
Ah, oui.
Le clos des roselières.
Oui, effectivement. Donc la société GGL qui a créé le lotissement L'Enclos des Roselières, là, je ne sais pas si tout le monde sait où c'est, mais c'est vers la rue Arnachère.
Chemin du Mas de Favre.
Elle sollicite le classement, comme c'est traditionnel, elle sollicite le classement dans le domaine public communal, des voiries, des réseaux et d'un bassin de rétention qui a été fait à cette occasion. Voilà. Donc on vous demande votre avis. Pour l'intégration dans le domaine public de ces voiries.
Ce qui est du grand classique. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Continue Bernard, levez.
Oui, alors là, effectivement, bon, là, j'ai pas préparé de résumé, je suis désolé, enfin bon. Donc, effectivement, il s'agit de travaux. Vous savez maintenant que quand on fait des travaux sur les bâtiments communaux, il est nécessaire d'avoir l'autorisation du conseil municipal pour autoriser le maire à déposer le permis de construire. Donc là, il s'agit du boulodrome, de travaux sur le boulodrome. C'est une casquette. Alors la casquette, ceux qui sont habitués au boulodrome savent ce que c'est.
À la buvette
du boulodrome, effectivement. La buvette du boulodrome est dans l'entrée, et si vous voulez, elle n'est pas couverte au début du bâtiment. Donc quand il pleut, ils sont mouillés. Donc on va faire ce qu'on appelle une casquette, c'est-à-dire on va ouvrir simplement le passage qui amène à la buvette. Et la deuxième modification, c'est de protéger les murs. Vous avez vu les murs du boulodrome? Il y a un espace entre le toit et les murs, le vent s'y engouffre, la pluie également, donc voilà, c'est pour protéger du vent et de la pluie. Voilà, monsieur Jean Walter, j'ai bien dit, parce que monsieur.
Alors, je vous demande donc.
D'autoriser le maire à déposer le permis de construire.
Voilà, qui est contre, qui s'abstient, merci. Madame Moulin-Traport, Paty, convention de partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34.
Oui. Alors, dans notre souci d'assurer aux familles et aux personnes isolées qui sont en rupture sociale un accès facilité à la culture, de façon à ce que cette dernière contribue à maintenir toujours ce lien social qui nous est cher et à favoriser le vivre ensemble, nous nous proposons de renouveler la convention de partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34. Nous transmettrons donc à cette association l'ensemble des manifestations culturelles municipales gratuites et payantes, accompagnées d'un quota de 5 à 10 taxes définies pour chacune d'elles. Il vous est donc demandé d'approuver cette convention de partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34 et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention.
Pas de remarques. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Point numéro 22.
Point numéro 22, ça c'est le renouvellement de la convention avec une association qui s'appelle l'association Marteau-Plume, dont l'objet est de faciliter le lien social aussi en donnant accès à tout type d'activités culturelles de manière économe, solidaire et conviviale. Alors elle se propose de créer une dynamique de covoiturage, cette association, pour se rendre aux différents spectacles et de développer des moments d'échange autour des représentations, c'est-à-dire avant, après, les débats, enfin, des choses comme ça. Donc, dans ce cadre-là, l'association se voit proposer des tarifs préférentiels, parce qu'il arrive en groupe, bien évidemment, sur une manifestation culturelle, et une réservation de 10 places minimum pour les membres de l'association. Voilà. Donc, il vous est demandé d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à la signer avec l'association Marteau-Plume.
Juste une petite intervention. Est-ce que vous pouvez mettre en place cette association aussi sur Carnon? Parce qu'apparemment, si vous parlez que de Moguio, ce serait peut-être bien de le faire parvenir sur Carnon.
Mais c'est elle qui prend l'initiative, c'est pas nous qui pilotons.
Oui, j'entends bien, M. Bourrel, mais on peut demander à cette association de voir s'il y avait une possibilité de mettre ça en place à Carnon aussi.
Il faudrait qu'effectivement cette association ait des membres qui soient issus de Carnon pour se faire.
Ça peut se faire. Bien sûr. Bien sûr. On passe au vote. Qui est contre? Merci. Merci.
Commentaire sur le vote. Sans polémique, ça passe.
Mais la culture, ça passe toujours. On est toujours tous d'accord. On est d'accord. C'est ça.
Programmation culturelle 2018-2019, modification du tarif pour le spectacle à l'ADEME.
Oui, c'est une modification pour le spectacle à l'ADEME. Alors nous proposons que ce spectacle passe du tarif B au tarif A, à savoir un passage de 6 euros à 4 euros. Donc on abaisse le prix, parce que ce prix correspond à un tarif jeune public, et de façon à élargir la jauge de cette représentation-là. Donc on vous demande d'approuver le fait qu'on abaisse le prix de ce spectacle, ce changement de tarif pour le spectacle à la veine du 3 novembre 2018.
Bien. On y va. Contre. Abstention. Merci. Le point 24, Mathilde.
Alors le point 24, on est sur autre chose. C'est le département de l'Hérault qui développe une action de sensibilisation et de prévention des risques auditifs en direction des collégiens de 3e qui la plupart du temps passent leur temps avec des écouteurs sur les oreilles. Alors cette action qui se nomme Ultrason va s'articuler autour de concerts pédagogiques dans les communes du département. Et dans le cadre de notre politique d'éducation artistique et culturelle, nous souhaiterions soutenir ce dispositif en mettant gracieusement à disposition le théâtre Bassagier pour cet événement, avec le Skeleton Band qui serait présent le 22 novembre et assurerait un concert pour 3 classes du collège de Moguio et 2 classes de notre collège. Voilà. Donc nous vous demandons d'approuver ce protocole d'accord et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer cette mise à disposition gratuite du théâtre pour cette prévention des risques auditifs en direction des collégiens de 3e.
Pas de remarques. Allez, on va soutenir tout ça. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point 25.
Le point 25, c'est encore une autre mise à disposition de locaux, mais ce coup-ci, nous proposons de mettre à disposition gracieusement la salle Morastel, afin que le fonds de dotation École de rêve, présidé par Pierre-Jean Gonzalez, Mayor, puisse donner de l'ampleur au projet qu'il mène déjà chaque année. Lors d'une exposition d'artistes sur le plan Marius Olive au Cabane du Salaisan à Moguio. Donc, il nous sollicite donc du 9 au 14 mai pour y tenir le salon des états de l'art. Il l'avait déjà fait l'année dernière, ça avait très bien marché. Une cinquantaine d'artistes sont invités à présenter leur production à cette occasion. Voilà, dans la continuité de ce qui a été déjà fait l'année dernière et de notre soutien au tissu associatif et à la valorisation de la création artistique, on se propose de mettre à disposition la salle des fêtes donc de Morastel et d'autoriser le SDR à disposer de cette salle du 9 au 14 mai 2018.
Allez, merci pour la précision. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Jean-Albert va nous parler de la mise à disposition gracieuse de l'espace des cistes de la salle anniversaire. À toi, Jean.
La ville de Monocarnon va accueillir sur un territoire la cérémonie anniversaire de 60 ans de l'association AFM Téléthon, le vendredi 16 novembre 2018. À cette occasion, la salle des sites et la salle de Césaire seront mises à disposition gracieusement à l'FM Téléthon. Je donc propose aux membres du conseil municipal d'adopter la mise à disposition gracieuse de l'espace des sites de la salle des Césaire le 16 novembre 2018 à l'objectif de la situation AFM Téléthon. En tant que partenaire.
Bien, merci Jean. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Donc, l'absence de M. Tricoire, donc, conformément à la loi, les emplois sur la collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ces emplois figurent au tableau par catégorie et cadre d'emploi. Donc, afin de tenir compte de la technicité liée à la gestion des élections, il est nécessaire de créer un poste de rédacteur territorial au sein de la Direction générale des services au regard des enjeux liés à ces missions. Donc, c'est un emploi de rédacteur pour occuper les fonctions de chargé des élections qui est proposé de créer, qui ne correspond pas à une création de poste en plus.
Oui, pardon, excusez-moi, c'est quelqu'un qui sera embauché de l'extérieur ?
Non, c'est quelqu'un.
Ah, ben d'accord.
Ah, la rédaction laisse à penser, oui, effectivement, que c'est un recrutement, alors qu'il s'agit d'un avancement. Ah, c'est une modification, on vous dit modification du tableau des effectifs, mais modification en ISO. Hein.
D'accord.
Ouais. Qui est contre, qui s'abstient ? Merci pour cette personne. Recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité. Je vais laisser peut-être Sophie parler du service scolaire. Jean parle du service des sports. Et Ariane a parlé du service de communication. C'est un moment de panique, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Donc,
il faut savoir faire quoi, ça.
Sophie.
C'est dans le cadre de nos études surveillées que nous avons donc besoin de faire appel à des renforts pour pouvoir assurer l'étude dans l'ensemble des écoles de la commune. Comme vous le savez peut-être, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, l'ensemble des enseignants de la commune n'assurent pas l'étude. Donc là où il n'y a pas d'enseignants, on travaille notamment avec des animateurs qui travaillent sur les temps d'ALP. Et j'ajouterai donc pour compléter qu'on a mis en œuvre un plan de formation pour ces animateurs pour leur permettre de se mettre vraiment dans les conditions optimales pour pouvoir assumer ces missions qui ne rentrent pas dans leur formation professionnelle. Donc ils ont eu droit à deux sessions de formation juste après une prise de deux semaines de leur fonction pour qu'ils puissent avoir toutes les questions nécessaires à poser. On travaille avec Réussite qui donc a créé sur mesure une formation dont je vous ferai une présentation un peu plus exhaustive une autre fois.
Mais c'est déjà très bien. Pour le service de sport, Jean ?
Dans le cadre de Midi-Sport, ce sont des activités sportives différentes qui sont proposées aux employés municipaux les jours de la semaine. Et pour cela, il faut de l'encadrement. Donc, tous les jours de la semaine, il y a 3-4 disciplines où il y a des moniteurs qui servent d'encadrement. Voilà. Ce sont des gens diplômés.
Merci Jean. Ariane.
Et sur service communication, donc on doit faire face à un surcroît d'activité par rapport à la tenue des événements. Et donc on recrute un agent contractuel en tant qu'infographiste pour l'instant sur 4 mois.
Pour la direction des affaires juridiques et des marchés publics, donc on a besoin d'un renfort dans le domaine des assurances en raison de la charge de travail liée à la renégociation des contrats d'assurance de la collectivité. Donc, je rappelle que ce ne sont pas des créations d'emplois, c'est une charge, une surcharge en termes d'activité où il est difficile à l'image de l'infographiste, par exemple, de mutualiser des services déjà existants.
Oui, en clair, ça fait combien de personnes à embaucher ?
C'est pas d'embauche. Au service scolaire, on va...
Au service scolaire, c'est des formations, apparemment. Donc, ils sont déjà là.
Les emplois sont contractés.
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais et c'est quand même des gens qu'on va déplacer, qu'on va amener là. Donc, combien de personnes sont censées être employées dans ces services ?
Une par service, c'est pas.
Pour la com, une.
Pour la com, une. Les marchés, un.
Mais au niveau de l'encadrement scolaire et du sport, c'est combien ?
Trois. Trois sports.
Trois. Ça fait cinq. Plus de services scolaires. Alors, service de sport, 3. Pour les études surveillées, 20 adjoints administratifs à temps non complet. C'est 2 heures hebdomadaires, donc c'est pas. Vous pouvez pas dire ce que c'est. Comprenez ?
Voilà. Ça peut être plus, c'est un moment.
Non. Oui, mais
en début de mandat, je me souviens d'une adjointe au chien. Des milliers et des milliers, il va falloir embaucher, il va falloir augmenter les impôts.
Moi,
vous m'avez
entendu.
Non,
une.
Une adjointe. Moins posée que vous.
Bon, mais pas con.
On fera la commission.
Merci.
6 éducateurs pour les. Voilà. Allez, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors ensuite, Monsieur Balsamo, modification des tableaux effectifs dans le régime municipal du port de Carnon, remplacement de l'agent à maladie. Alors, c'est M. Tricoire qui devait le rapporter.
Ah, d'accord.
On a un agent qui est absent.
On a un collaborateur absent pour maladie et on demande son remplacement. Voilà. Temporairement pendant sa maladie.
Le temps de la maladie.
Voilà.
Allez, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et M. Balsamo pour le point.
Je termine. Point 30. Question des navires abandonnés, des épaves au port de Carnot. Donc là, on vous demande une autorisation permanente parce qu'on a des bateaux qui sont des épaves. Les gens sont barrés. Donc au-delà de la procédure contre la personne physique, on récupère les bateaux, soit on les vend, soit on les détruit. Voilà. Donc je demande d'approuver cette délibération.
Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, ici se termine ce conseil qui sera suivi d'un conseil au mois de décembre en principe. Vraisemblablement le 10, mais cela vous sera confirmé plus tard. Je vous remercie pour votre participation.